Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix jusqu'à 19h20 pour cause de rugby. Vous retrouverez Alexandre Priam et l'équipe des sports. Et nous sommes le 22 octobre 2021. Il y a 100 ans aujourd'hui, naissait l'immense Georges Brassens. Et on va donc présenter les vraies voix de manière un peu originale aujourd'hui. Il y a ce soir le président de l'Institut de la Parole, un certain Philippe Bilger qui a le beau rôle. Il y a Caroline Pilastre, la fort jolie consultante dans le domaine du handicap, heureux qu'elle soit là. Et le diplômé d'HEC, notre grand ami Tom Conan, qui fait plein de choses dans la vie, tout le contraire d'un âne. Et il faut saluer aussi les copains qui travaillent dans l'ombre, Jamel, Aurore et Zacharias, car on les adore. On est heureux de vous retrouver tous les soirs sur Sud Radio. Les vraies voix, c'est un peu toujours les copains d'abord. Alors c'est original quand même comme lancement,
c'est
les
génial,
amis.
C'est génial, magnifique. Philippe. Et,
bravo.
Et très juste en plus.
Ah, on a essayé. Alors,
magnifique.
Je remercie Javel et Aurore, on a répété.
Excellent.
Et je voulais absolument rendre un hommage à Georges Brassens qui aurait eu 100 ans aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me suis dit, quelle plus belle chanson de Brassens que Les Copains d'abord pour lui rendre hommage.
C'est clair, magnifique, vraiment. J'ai
adoré
la prestation.
Tu peux enregistrer un disque. Hein. Là, si on était dans The Voice, on se retourne tous.
Bon, Yvan Cujus, si tu nous écoutes, on attend l'invitation dans le loft. On embrasse d'ailleurs notre ami Yvan. Les deux débats du jour à 17h30, une indemnité inflation de 100 euros contre la hausse du carburant, est-ce à la hauteur? C'est un vrai sujet, c'est Jean Castex qui l'a annoncé hier soir aux 20h de TF1 et à 18h30, notre grand débat. Le zémourisme est-il en train de s'installer dans le paysage politique français? C'est une étude de l'IFOP pour la LICRA qui démontre que le zémourisme est en train de s'installer dans le paysage politique français. Cette étude, elle a été faite par François Cros, le directeur du pôle politique de l'IFOP, et il sera avec nous à partir de 18h30. Ça va, les vraies voix?
Nickel.
Très bien.
Heureux de vous avoir. Alors, j'ai voulu rendre un petit hommage à Georges Brassens. C'est mon coup de cœur du jour. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de Georges Brassens? Tiens, Philippe Bilger, vous l'avez déjà rencontré ou vu en concert ou
Non, en fait, je n'ai pas manqué un concert de Georges Brassens. Alors, peut-être que j'en ai manqué un, sans m'en rendre compte, mais j'ai fait tous les bobineaux, je suis allé partout où il passait, et j'ai été emballé immédiatement, comme tant de Français, par la qualité poétique, et surtout, j'insiste sur quelque chose qu'on oublie trop souvent, le génie mélodique de Georges Brassens. C'est extraordinaire, Philippe. Mon Dieu, vous avez réussi presque à rivaliser. C'est admirable ce que vous avez fait.
Bon, il ne me reste que plus qu'à laisser pousser la moustache et à mettre une perruque. Par contre, quand vous avez dit « j'ai été emballé », j'ai pensé que vous alliez dire comme l'Arc de Triomphe. Mais non, pas tout à fait.
Non.
Caroline Pilastre, vous aimez les chansons de Georges Brassens?
Ah bah oui, évidemment. C'est un amoureux des mots, un poète hors pair. C'est quelqu'un qui perdurera des siècles et des siècles. En plus, moi, j'ai vécu 10 ans à Montpellier. Donc,
ah oui, à 7 et à quelques 7, kilomètres,
exactement.
À 30 kilomètres.
Il est enterré là-bas et si j'avais dû choisir une chanson ce soir, parce qu'en fait je pensais que ça serait ta question
votre chanson préférée,
Les amoureux des bons publics.
Ah oui.
J'aime beaucoup, même si j'aime énormément ses chansons, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait partie de l'histoire française et oui, quel poète hors pair. Ça manque des gens comme ça, je trouve. Actuellement, il y en a presque plus. Hein.
Les Philippe. Amoureux qui se bécoquent sur les bancs publics. Bancs publics. Bancs publics. En se disant
plein d'allégories. Et juste. Justement, Philippe Bilger, on ne vous a pas demandé votre chanson préférée de Georges Brassens.
Alors, si vous le permettez, Philippe, il y en a une extraordinaire qui s'appelle « L'orage ».
Oui.
Et une seconde, si vous le permettez, qui m'a toujours beaucoup touché, qui s'appelle « Les passantes », dont
ah
le
oui,
texte
magnifique.
N'est pas de lui. N'est
ah
pas
oui,
de lui,
magnifique,
mais,
les passantes.
Mais la musique est splendide. Et vous avez dû en vivre beaucoup des états d'âme tels que je vous connais dans les trains, comme ça, mon cher Philippe.
Et Tom Collin, vous aimez Georges Brassens, vous êtes artiste.
Moi, j'aime beaucoup aussi, effectivement. Mais en fait, j'avais découvert Brassens dans le film Dîner de cons, ce qui fait la musique du générique.
Quand on est con, on est con.
Quand on est con, on est
c'est
con.
C'est le temps de faire rien à la faire.
Qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con.
Tu chantes bien, toi aussi.
Et elle était vraiment excellente. Je m'étais dit, mais qui chante ça? Évidemment, c'était une chanson qui était déjà ancienne quand j'avais regardé le film. Je m'étais dit qu'en effet, il y avait quelque chose de très mélodieux, comme le dit Philippe, en effet, et aussi d'assez profond. J'ai l'impression qu'il y a toujours au moins deux sens, voire trois sens dans l'ensemble de ces textes. C'est peut-être un petit peu l'héritage de quelqu'un comme Renaud, ensuite, qui a repris ce type de travail.
Et Maxime Le Forestier, qui est l'héritier de Brassens.
Mais c'est vrai que c'est spécifiquement français. C'est-à-dire que c'est trouvable nulle part ailleurs.
Ah, ça, c'est vrai.
Et puis c'était vraiment une vraie voix, parce qu'il disait lui-même qu'il était sans Dieu ni loi. Faut pas oublier aussi que c'était quelqu'un...
C'est Anard, oui.
Voilà, c'est ça, de rebelle. Hein.
Là, on entend un bout de Le temps ne fait rien à l'affaire.
Vieux con des neiges d'antan. Celle-là, ouais.
C'est tellement vrai.
Ça prend pas une ride, hein. Non, mais vraiment.
Ça reste valide.
Je sais pas, mais Philippe Bilger, qui est le plus âgé des vraies voix, qui dit Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, je sais pas, les amis, si c'était une attaque contre nous, mais on peut légitimement.
En connaissant Philippe.
Mais on peut légitimement se
poser. C'est impossible.
Un sentiment malin de ma part, c'est impossible.
Allez, les vraies voix.
Je vois que Tom a changé de coiffure pour nous plaire.
Ouais. Hein. Ah oui, ah, mais ça lui va très bien.
Je trouve aussi. Hein.
Ouais, j'espère que ça va pas trop décevoir.
Encore plus.
Alors d'ailleurs, à 18h15, on partira à 7 pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a une exposition spéciale à l'espace Georges Brassens, et on sera avec Sylvie Raffard, la directrice de l'espace Brassens, qui va nous parler de cette expo pour les 100 ans de la naissance de l'artiste. Et d'ailleurs, c'est beaucoup moins gay, mais vendredi prochain, ça fera 40 ans pile poil, jour pour jour, qu'il nous a quittés. Donc vraiment, double anniversaire Brassens. Les vraies voix, 17h10 à 17h30, notre premier grand débat. Une indemnité inflation de 100 € contre la hausse du carburant, est-ce à la hauteur? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.
Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Tom Conan. Premier tour de table, Philippe Bilger voulait parler du drame qui s'est passé avec Alec Baldwin.
Absolument, mon cher Philippe, et le hasard malheureux a fait que je voulais également parler d'Éric Zemmour qui, dans un salon, a eu la mauvaise idée tout de même de cibler les journalistes avec une arme, heureusement non chargée. Et ensuite, on a appris, vous venez de le rappeler, qu'Alec Baldwin, avec une arme qu'il croyait déchargée, a blessé quelqu'un et tué un autre, le réalisateur, je crois.
Non. La directrice de la photographie, qui avait 42 ans.
Le hasard a fait que j'ai appris aujourd'hui, je ne le savais pas, que tous les militaires ou les gens qui s'y connaissent en armes déconseillent absolument, même lorsque l'arme est déchargée, de viser un groupe ou qui que ce soit. On ne sait jamais, une catastrophe peut arriver. Donc je suis navré de tout cela et je me demande si Éric Zemmour, dont nous allons parler par ailleurs, Philippe, vous nous l'avez annoncé, ne perd pas un tout petit peu les plombs dans certains de ses comportements, et il faut qu'il fasse attention. Il maîtrise son verbe, mais il faut qu'il domine ses gestes également.
Caroline Pilastre.
Bah écoutez, pour l'affaire d'Alec Baldwin, évidemment, c'est un accident mortel, c'est terrible. Surtout qu'Alec Baldwin n'avait pas l'intention de tuer qui que ce soit, ça n'est pas un psychopathe. Mais il y a eu une erreur, puisque de toute manière, il a été entendu par la justice par les policiers américains, qui l'ont relâché. Mais il y a eu une erreur technique, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment sur un tournage, il n'y ait pas plus de vigilance concernant les armes, puisque là, il était en train de tourner à Western. Vous avez le réalisateur qui apparemment vient de sortir de soins intensifs. Cette pauvre photographe de 42 ans a été tuée. Mais ça rappelle aussi une affaire qui a eu lieu il y a 25 ans. Le fils de Bruce Lee avait été tué de la même manière sur un tournage, Brandon Lee. Donc c'est assez terrible, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Maintenant, pour parler d'Éric Zemmour, bien sûr que moi je n'ai pas trouvé cette scène fine, évidemment, se retourner comme ça vers les journalistes, mais je pense qu'on en fait quand même tout un pataquès, parce que c'est plus une histoire de chroniqueurs, d'éditorialistes, de journalistes. Le grand public, à l'arrivée, s'en fiche. Il a été sans filtre, comme il sait l'être souvent en meeting. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais l'arme n'était pas chargée, certes, c'est pas intelligent, mais d'un autre côté, il a tué personne, et je trouve qu'on en a fait des caisses, et je parle même pas de la réaction de Madame Schiappa, que j'ai trouvé mais lamentable et totalement stupide. Alors,
c'est vrai Tom qu'on Colin. A fait des caisses, en effet, je suis assez d'accord, je suis pas pour, pareil, faire en sorte qu'il y ait 40 000 articles de presse sur le sujet, surtout qu'en plus ça donne de l'audience et de l'importance au moment, donc bon, c'est pas forcément heureux. Néanmoins, quand même, je trouve que ça donne une impression tout de même, c'est que sans vouloir surinterpréter l'événement, ça montre que la notoriété monte à la tête quand même. C'est-à-dire que je suis certain que quelqu'un comme Zemmour, qui a pas l'air d'être abruti, en privé, ou en tout cas dans un cadre, j'ai envie de dire, plus normal, s'il n'était pas le personnage qu'il est devenu, il aurait peut-être jamais fait ça. La notoriété en elle-même, je veux dire, laisse croire aux gens qui sont un peu au-dessus de la mêlée, qui sont un peu comme ça inatteignables. Et donc, en fait, bah là, on lui a un petit peu rappelé tout simplement qu'en fait, bah, ça restait une personne normale, un candidat en l'occurrence. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment important de rappeler ça. Il y a vraiment des personnes qui dépassent parfois des limites de ce fait-là. Et c'est Zemmour, mais ça peut être d'autres personnes, des influenceurs, par exemple, parfois qui se permettent des choses incroyables, des youtubeurs, etc. Ah oui. Parce qu'ils croient que, voilà, c'est open bar et qu'ils ne peuvent jamais être atteints. Mais en réalité, non, la notoriété donne beaucoup plus une responsabilité et des devoirs que des droits.
Mais je vais vous dire une chose, je vais faire réagir Philippe Bilger comme c'était son tour de table. Je ne sais pas si Éric Zemmour a fait son service militaire, mais quand je l'ai vu prendre ce fusil de précision, j'ai eu l'impression de voir les conscrits qu'on était quand à 21, 22, 23 ans, on arrivait et qu'on nous mettait un FAMAS dans les mains, c'était le fusil d'assaut de l'armée française à l'époque, dans les mains, et on s'était jamais senti aussi puissant de notre vie, parce qu'on avait une arme avec un chargeur de mémoire 25 cartouches, donc on disait là, je suis Rambo, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et quand j'ai vu le regard d'Éric Zemmour, j'ai vu le regard d'un gamin de 20 ans, j'ai été instructeur tir pendant une semaine dans mon service militaire sur les blobs, les nouveaux incorporés qui arrivaient après, et c'est vrai que quand on leur donnait le FAMAS dans les mains, qu'on leur apprenait à monter une baïonnette, à sortir le chargeur, à le monter, à le démonter, les gamins, ils avaient des têtes comme ça parce qu'ils n'avaient jamais eu une arme aussi puissante dans les mains. Vous ne croyez pas, Philippe Bilger, il a fait le service militaire, Éric Zemmour, ou pas ?
Je n'en sais rien, Philippe, mais dans cette analyse, vous avez été limpide. Dans le domaine des armes, vous y connaissez. Mais ce qui m'a frappé, et bien sûr, j'ai vu que Tom était un petit peu sur ma longueur d'onde.
99.9 à Paris pour Sud Radio.
J'ai senti tout de même de la part d'Éric Zemmour une sorte d'agacement, voire d'hostilité non simulée à l'égard du public qu'il ciblait. Je ne crois pas, en effet, qu'aujourd'hui, il ait davantage de bienveillance à l'égard des journalistes qu'il n'en avait avant qu'il soit pratiquement candidat.
Maintenant, c'est le tour de table. Vous voulez ajouter une chose sur le tour de table ?
C'est juste pour vous dire, en fait, effectivement, que ça impose aussi un style. Et après, apparemment, c'est le style qui compte peut-être se donner pour sa campagne future. Et c'est vraiment le style de Trump, là, pour le coup. C'était vraiment briser les codes, être un peu dans le trash.
Enfin, avec l'intelligence et la culture en plus, pardonnez-moi. Il gérait mieux les médias, Trump. Hein. Pour le coup, c'est plus un homme de médias sur ce plan que ne l'est peut-être, M. Zemmour. Il est plus sans filtre.
C'est aussi un homme de divertissement, ça, je veux dire.
Oui. Ah, c'est un polémiste.
Il a fait de la télé, etc.
Il a fait de l'infotainment, comme on dit. Et pas seulement de l'information pure.
Info, c'est information, information, et tainment, c'est divertissement.
Qui vient de entertainment, ça veut dire divertissement.
Non, parce que tout le monde ne le sait pas, mon cher Philippe.
Vous n'y connaissez pas que Brassens, mon cher Philippe.
Merci. Alors, Tom Conan, on va lancer votre tour de table en musique, vous permettez ?
Bien sûr.
C'est parti.
Oh, et si j'étais riche.
Philippe Bilger, ça rappelle des souvenirs. Hein. C'était les années 70. Ça, Yvan Rebroff. Oh, bah, honteux, tiens. Alors... Et vous voulez parler de quelqu'un qui est maintenant très, très, très riche.
Alors, on a tous envie d'avoir plus d'argent, hein, généralement, pour pouvoir en profiter, le distribuer autour de soi. Mais il y a des personnes.
Il faut jouer à l'euro-million, c'est vraiment.
Voilà. Pour le garder, Tom.
Non, mais c'est vrai, tout le monde a envie d'argent dans un monde qui est régi, malheureusement, par cela.
Quand même,
non, parce que le monde est régi par cela. C'est aussi pour cette raison-là. En tout cas, Elon Musk, vous savez peut-être, celui qui avait créé PayPal, qui a ensuite créé Tesla, l'entreprise de voitures électriques, également SpaceX, celle qui envoie des fusées dans l'espace et qui travaille.
Qui fait Hyperloop.
Voilà, exactement. avec pas mal d'autres projets par ailleurs. Donc c'est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Et surtout, en fait, ça pourrait évoluer parce que, comme vous savez, c'est des entreprises qui sont capitalisées en bourse. Et donc, de ce point de vue-là, comme elles sont cotées, bah, la variation effectivement des cours fait que bah, ça peut aussi augmenter en fonction des attentes des investisseurs. Et donc, ce qui se passe actuellement, ce qui est assez incroyable, c'est que alors que déjà la fortune d'Elon Musk est déjà élevée à plusieurs centaines de milliards de dollars, ce qui est déjà assez considérable pour une seule personne.
Les fans de moi ne sont pas trop difficiles, on va dire ça comme ça.
En réalité, alors, il est sorti il y a deux jours un chiffre assez incroyable, c'est-à-dire qu'il y a des banquiers, notamment de Morgan Stanley, donc une très grande banque d'affaires américaine, qui ont confié à Bloomberg, l'agence de presse spécialisée en finance, qu'il pourrait valoir Elon Musk, du fait de ses, comment dire, de ses investissements dans ces différentes entreprises, de ces créations-là, il pourrait valoir d'ici peu de temps 1 000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez.
Non.
Pour vous imaginer
un
petit
peu. C'est le quart de Philippe Bilger.
Non, mais aujourd'hui, l'entreprise la plus riche du monde, c'est Apple, qui a une capitalisation boursière depuis à peu près un an d'environ 2 000 milliards. Plus de 2 000 milliards. C'est déjà absolument considérable.
Bah, Apple, c'est plus que tout le CAC 40 réuni, je crois.
Et surtout, ça n'avait jamais été atteint par aucune autre entreprise auparavant. Donc, c'est absolument considérable. Et donc là, on parle donc d'une seule personne, avec évidemment des participations dans des entreprises, mais qui pourrait valoir à lui seul la moitié de cela. Donc, c'est-à-dire vraiment des sommes absolument colossal. Ce que je voulais dire en fait par là, c'est que bon, tout le monde est au courant qu'il y a des inégalités importantes de revenus, de patrimoine. Ça a été beaucoup étudié par des gens comme Thomas Piketty en France par exemple, mais pas mal d'autres personnes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait par là, il y a un livre de Welbeck qui est Sérotonine, qui est un de ses derniers, où il rappelle à un moment donné que bah, finalement, dans la société d'aujourd'hui, tout le monde le sait, personne ne veut l'avouer, mais tout le monde le sait, c'est pas le travail qui rapporte. Effectivement, là, en fait, on en a la preuve, mais absolument massive. Dire quelqu'un qui déjà, qui a beaucoup de talent, c'est pas le problème, qui a pris plein de risques, et etc., mais qui vaut déjà plusieurs centaines de milliards de dollars, pourrait en valoir demain 1 000. Il faut quand même réaliser, on peut pas considérer qu'Elon Musk, malgré tout le talent, et moi j'aime beaucoup ce gars-là, il a un côté assez fantasque, et puis bon, il est
quelqu'un
qui innove, il est visionnaire, c'est vraiment un pionnier. Néanmoins, se dire que dans le système dans lequel on est, il pourrait valoir demain 1 000 milliards, et ça semble assez probable, ça montre quand même à quel point, contrairement à ce qu'on croit, notre société ne repose absolument pas sur le travail. Ce qui est quand même un vrai problème pour encourager les gens à se lever le matin.
Philippe Bilger, on avait connu la série américaine, l'homme qui valait 3 milliards, là c'est l'homme qui va valoir 1 000 milliards, et c'était 3 milliards de francs, là c'est 1 000 milliards de dollars.
Voilà.
Je ne serai pas aussi définitif que Tom, mais n'étant pas révolutionnaire, je suis plus nuancé. Le travail continue en partie à payer. Évidemment, il prend un exemple extrême. Deuxième élément, il y a une très belle définition de l'argent, Tom, de Dostoïevski, liberté frappée. Et troisième élément, je vous croyais un ami, mais vous nous plombez la fin de semaine en nous contraignant à compter nos quelques malheureux copecs, alors que nous avons Elon Musk qui nous nargue du haut de ses combien 1 000 milliards.
Vous n'êtes tout à fait,
vous n'êtes vrai. Vous n'êtes vraiment pas sympathique d'insigner une telle jalousie en nous.
S'il est possible de rajouter un petit élément, ce qui est aussi étonnant dans ce genre de phénomène, c'est qu'en l'occurrence, cette estimation-là viendrait de SpaceX, donc effectivement son entreprise, qui effectivement envoie des capsules spatiales dans l'espace.
Bah, il lui reste plus que l'espace à atteindre, de toute manière, comme Bezos.
Et donc c'est cette entreprise, effectivement SpaceX, qui pourrait effectivement devenir l'entreprise la plus cotée au monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ça n'est absolument pas lié à des ventes réelles, mais beaucoup plus à des spéculations.
Absolument.
Sur les marchés.
Caroline Pilastre,
du génie.
Oui, c'est du génie. Non, mais moi, je n'ai aucune jalousie envers les gens qui réussissent. Alors évidemment, là, on est en train de parler...
Mais vous êtes une sainte, vous, Caroline, on le sait.
Mais non, mais attendez, qui peut, de toute manière, être à la hauteur d'une fortune pareille? Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Sur le principe, ça fait partie du jeu capitaliste. Hein. Donc, il a pris des risques, c'était un entrepreneur. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il traite bien ses employés. C'est surtout ça qui m'intéresse.
Vraiment?
Sur le plan salarial, sur le plan moral. Après, il y a toujours des gens qui font de l'argent, d'autres qui en ont moins. Ça fait partie malheureusement de la vie. On parle d'égalité, de liberté, de fraternité. Mettez-les dans le sens que vous voulez. Mais c'est pas vrai. On part pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Et puis, ce monsieur a pris des risques. C'est un gros entrepreneur. Moi, j'ai du mal avec lui sur certains aspects parce que je le trouve plus que fantasque. Alors, c'est un génie, sans doute incompris sur plein de choses. Je vous dis, il lui reste plus que l'espace à atteindre. Mais comme les grosses fortunes GAFAM, mais ça me choque pas en soi.
On peut quand même s'interroger malgré tout sur vraiment le système dans lequel on est, qu'on peut appeler néolibéral, capitaliste, comme vous voulez, peu importe, qui permet des concentrations de richesses aussi délirantes.
Mais peut-être qu'il redistribue. Non, mais je veux dire, à un moment donné,
moi,
si
par exemple, moi, j'ai pas l'impression d'être en manque d'argent spécialement, d'être plutôt dans les privilégiés d'une certaine façon. Pour autant, une personne qui gagnerait par exemple 50 000 euros par mois, ça me paraîtrait absolument considérable.
Parce que
pourtant, on vit pas dans un pays pauvre. On vit dans un pays du Nord, dans les pays les plus riches du monde. Donc, à mon échelle, 50 000 euros par mois, ce serait déjà absolument considérable. Là, on parle d'une personne qui pourrait valoir 1000 milliards. Enfin, rendez-vous compte quand même. Pour une seule personne, c'est absolument fou.
On a atteint le temps, mais allez, en une minute, on le fait, Tom. Parce que si on regarde de bien, Tesla, ça a gagné de l'argent pour la première fois il y a très peu de temps, et très peu d'argent, ça n'a jamais distribué un dollar de dividende. Est-ce que, en fait, la fortune d'Elon Musk, elle n'est pas un peu sur du sable? Parce tant que la bourse et les banques suivent, ça va. Mais si la bourse et les banques ne suivent plus, ça s'effondre.
C'est vrai, alors c'est tout à fait vrai, mais c'est le principe après de la finance. En fait, comme effectivement la finance repose non pas sur le présent, mais sur l'avenir, c'est pas vos performances actuelles qui permettent effectivement de faire s'envoler le cours de bourse, mais les performances espérées de demain. C'est comme ça avec des boîtes comme Twitter, par exemple, on met plus de 10 ans à rapporter de l'argent. C'est le principe même du fonctionnement de la finance. Mais effectivement, si demain on ferme la bourse, Elon Musk n'a plus un sou.
Vous êtes bien dans les vraies voies, et vous allez voir que pour notre premier débat, il va y avoir de la déflation, une indemnité. Inflation de 100 euros, on est passé de 1000 milliards de dollars à 100 euros, contre la hausse du carburant, est-ce à la hauteur? Vous êtes 96,5% à dire non, et avec nous pour en débattre, on aura Benjamin Cauchy, entrepreneur et ancien gilet jaune. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Bien établi, dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie, ces furies perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols, et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Tom Conan et Caroline Pilastre.
Hé, camarade, t'as pas 100 balles ?
Nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 euros.
100 patates !
Qui sera versé aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois.
Eh, va bosser, feignant, la France a besoin de toi.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille.
Booba et Caris, tiens, ça pourrait être le double du duo Tom Conan, Philippe Bilger. Ce serait sympathique, je pense.
Mais il y en a qu'un qui chante bien.
L'annonce d'une indemnité inflation de 100 euros par Jean Castex hier soir fait couler beaucoup d'encre. Une indemnité qui va coûter 3,8 milliards d'euros au compte public, qui promet d'être une usine à gaz et qui sera injuste puisque cette prime sera individualisée au revenu par tête et non au revenu des foyers. Une prime de 100 euros qui, ramenée par mois, représente une aide de 8,33 euros par mois et qui pourtant va coûter une fortune au compte public. Mais il est vrai que nous sommes en période électorale, donc en pleine politique du chéquier ouvert, d'où notre premier débat. Une indemnité inflation de 100 euros contre la hausse du carburant, est-ce à la hauteur? Eh bien, vous êtes 96,2% à dire oui. On n'arrive pas à joindre Benjamin Cauchy. Alors, on va faire réagir les vraies voix. Tout d'abord, est-ce une aide juste puisqu'elle est par personne et pas par foyer? Ainsi, un couple dont un des conjoints gagne 10 000 euros par mois et l'autre 1 900 euros touchera 100 euros de prime. Et pour les couples dont les deux membres gagnent 2 100 euros par mois, ils ne toucheront rien du tout. Philippe Bilger.
Mon cher Philippe, vous savez sans doute que je ne suis pas un spécialiste de ces sujets-là, mais d'abord, pour répondre à la question de Sud Radio, bien sûr, on peut toujours dire que c'est dérisoire. On souhaite toujours davantage pour les gens qui vont être dans les difficultés. C'est le premier point. Le deuxième, vous l'avez vous-même évoqué avec un certain nombre de critiques dont je ne doute pas de la pertinence. Mais une fois cela dit, lorsque j'ai entendu le président de la République tout à l'heure, il ne m'a pas semblé que son argumentation sur tous les points était absurde. Et je voudrais terminer par le fait qu'il m'a semblé que le pouvoir cherchait à tout prix une solution qui lui permettrait de se distinguer des solutions proposées par l'opposition. Et donc, il a choisi ce chèque inflation ou que sais-je. Voilà.
Caroline Pilastre, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus logique de faire le revenu par foyer plutôt que le revenu par tête, parce que j'ai pris deux exemples. Vous avez 12 000 euros de revenus par mois, vous touchez une prime de 100 euros, vous en avez 4 200, vous n'avez rien.
Entièrement d'accord avec vous, Philippe. Mais c'est une action à court terme pour redonner du pouvoir d'achat aux Français en répond à l'urgence avant l'élection présidentielle, hein, puisque cette aide sera versée en décembre. Tout simplement parce qu'il y a une augmentation, comme on le sait, du gaz, de l'électricité. Il y a un problème de pouvoir d'achat. Les vêtements coûtent plus cher, l'alimentation aussi. Donc moi, je trouve que là, c'est un peu de pipeau, parce qu'en fait, c'est notre argent, hein. C'est un chèque en fait qui est redistribué quelque part sur nos comptes, mais c'est les impôts de tout le monde en fait là. Ils sont en train de faire.
Sur la mesure, effectivement, je connais pas les détails, mais ça me pose effectivement un gros problème d'équité, ça me semble assez évident. Peut-être que ça sera corrigé ensuite de manière concrète dans un décret d'application. Mais indépendamment de ça, effectivement, moi je constate bien dans à la fois effectivement les produits alimentaires, bon le logement c'est déjà le cas depuis longtemps,
30%
et
moyenne.
Effectivement tout le reste, il y a une inflation tout court, c'est-à-dire une hausse générale
et la taxe foncière, on en a parlé.
Ah oui, non mais c'est absolument incroyable. Et donc en fait cette situation m'a fait en sorte, comment les gens qui sont dans la difficulté, qu'est-ce qu'ils font dans ce genre de cas? Et ils font des arbitrages, comme on dit. Alors du coup les dépenses les plus contraintes, je ne sais pas, assurance habitation, nourriture, crédit, loyer, et toutes ces choses-là, et évidemment, les impôts, voilà, on les paye, évidemment, on ne peut pas reporter. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Ils vont, un, moins manger, deux, moins se nourrir ou mal se nourrir, et trois, effectivement, éventuellement, moins chauffer leur logement.
Non, mais Tom, on répond à la grogne des gilets jaunes, parce que là, les gilets jaunes vont reprendre autour des ronds-points.
Ça fait 15 jours déjà qu'ils ont repris.
Oui,
il y a surtout une incapacité
plus, dans les week-ends à venir. Hein.
Mais il y a surtout une incapacité, quand même, du point de vue de la politique économique du gouvernement depuis 4 ans à relancer la machine économique. C'est quand même aussi...
Philippe Villegère veut réagir, on part au 0826 300 300, où ça réagit justement.
Très rapidement, Philippe, il me semblait que dans l'argumentation du président, notamment lorsqu'il contestait le projet qui se rapportait à la TVA, il avait expliqué que l'intérêt de ce chèque, c'est qu'il touchait un public ciblé. Je ne sais pas vraiment ce que vaut cette idée, mais immédiatement, elle ne me semblait pas absurde. Mais vous avez près de vous, et vous-même, vous êtes un économiste. Je suis impatient de connaître votre point de vue.
Ah bah écoutez, on va pas avoir le mien, mais on va au 0826 300 300, direction Paris. Bonsoir Nadia.
Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous nous avez appelé donc au 0826 300 300, est-ce que pour vous l'annonce de Jean Castex hier soir au JT de TF1 est à la hauteur, ce chèque, cette indemnité inflation de 100 euros?
Mais je pense que déjà, c'est déjà bien, voilà, faut pas non plus être trop négatif, il y a quand même un geste qui est fait, une reconnaissance de ce phénomène des fins de mois difficiles de l'inflation. Par contre, moi, je dirais juste qu'il faudrait peut-être compléter ça avec une action sur les grandes surfaces et tous ces acteurs qui ont reçu beaucoup d'argent l'année dernière, et peut-être leur demander de faire quelque chose au niveau des prix, d'avoir des produits de première nécessité à des prix bloqués, des choses comme ça. Donc je pense que c'est une première étape, mais que pour lutter contre cette inflation, il faudrait peut-être aussi demander un retour d'ascenseur à des secteurs qui ont été beaucoup aidés.
Alors voilà. Justement, je voudrais vous poser une question, Nadia, et on va faire réagir les vraies voix. On a trouvé comme ça, l'argent magique n'existait pas avant le Covid. Là, on a trouvé 3,8 milliards, parce que si je fais bien le calcul,
oui,
38 millions de personnes multipliées par 100 euros, ça fait 3,8 milliards. C'est-à-dire, je vais donner une équivalence, c'est pratiquement un porte-avions Charles de Gaulle à propulsion classique. Donc vous voyez le truc, non mais c'est complètement fou comme chiffre. Comme ça, dans une annonce au journal de TF1, est-ce que vous n'avez pas peur, avec la politique du chéquier ouvert, qui est toujours le cas en période d'élection présidentielle, que les factures, quand elles vont arriver à partir de l'été prochain, vont faire encore plus mal aux Français?
De toute façon, les factures, je veux dire, ça, c'est peanuts par rapport à... Moi, c'est l'impression que j'ai, hein, 100 euros par personne, c'est par rapport à tout ce qui a été dépensé, c'est pas ça qui va faire basculer quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut quand même le prendre. Après, il faut arrêter de prendre dans les caisses de l'État. C'est pour ça que je parlais des autres acteurs, des personnes qui ont été aidées, la grande distribution, les
restaurateurs pourraient être fermés, etc. Alors, et puis, merci beaucoup, Nadia. On a retrouvé Benjamin Cauchy, entrepreneur et ancien gilet jaune. Bonsoir, Benjamin Cauchy.
Bonsoir, Philippe.
Bonsoir.
Pour vous, donc, vous avez entendu Nadia, elle dit, Nadia de Paris, c'est déjà bien, il faudrait compléter par une action des grandes surfaces pour baisser les prix. Est-ce que pour vous, c'est déjà bien ce chèque de 100 euros pour 38 millions de Français?
Bah écoutez, si l'objectif était de répondre à la hausse du carburant, je pense malheureusement que le gouvernement est tombé à côté. Tout simplement parce que les 38 millions de personnes qui vont toucher les 100 euros ne sont pas forcément des automobilistes. Ce sont des gens qui ont potentiellement n'ont pas de permis, n'ont pas de véhicule. Donc, on ne répond pas au problème du carburant. On constate encore une fois que ce gouvernement préfère, au lieu d'alléger une taxe, ne serait-ce que temporairement sur le carburant, préfère créer une nouvelle usine à gaz pour créer ce chèque. Alors évidemment, 100 euros de plus, qui peut s'en plaindre? Mais est-ce que c'était vraiment le bon levier? Ça, j'en doute.
Ouais, alors, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'augmentation des prix de l'énergie, ça concerne la plupart des pays du monde actuellement, donc c'est pas spécifique à la France. Et comme effectivement on importe,
C'est le cours du baril, hein.
Voilà. Et comme on importe une grande partie de l'énergie, évidemment, même si on a le nucléaire pour l'électricité, etc., et d'autres énergies renouvelables notamment, mais on est quand même dépendant de l'extérieur. Et donc de ce point de vue-là, on ne maîtrise pas effectivement cet approvisionnement. On n'est pas autosuffisant en totalité. On l'est en partie. Et donc pour cette raison-là, en fait, le vrai souci qu'il y a en France par rapport à certains autres pays quand même, c'est que les revenus sont quand même particulièrement bas. En France, le revenu stagne depuis quand même beaucoup d'années. Le pouvoir d'achat s'est parfois contracté, il s'est après stabilisé depuis 10-15 ans, mais grosso modo, le salaire moyen et le salaire médian sont près autour de 1600-1650 euros aujourd'hui en France, ce qui est très faible quand on voit l'ensemble des postes de charge auxquels la plupart des ménages doivent faire face, qu'on soit dans des grandes métropoles ou dans d'autres zones. Donc en fait, le problème, c'est pas uniquement la question des charges, puisque ça, on peut pas le maîtriser malheureusement, c'est la question des revenus. Où est la politique économique de Macron depuis 4 ans pour l'augmentation du pouvoir d'achat et pour l'augmentation des revenus de manière générale? Parce qu'il y a la question du chômage. Hollande voulait à l'époque inverser la courbe du chômage, oui. Vous savez. Il l'avait vaguement réussi sur la fin, plus ou moins. Mais en revanche, les revenus sont toujours massivement faibles. Moi, je connais pas mal de gens autour de moi, par exemple, qui veulent quitter le pays parce qu'ils veulent chercher des revenus plus élevés ailleurs. Aujourd'hui, la France, quand même, se paupérise massivement. Et donc, dès qu'il y a une augmentation de ce type-là, on ne peut pas y faire face.
Philippe Bilger voulait réagir. La France se paupérise massivement. On va donner la parole également à Caroline Pilastre et à Benjamin Cauchy.
Je voulais demander à Benjamin, dont je salue le retour.
Bonjour Philippe.
Il y a un arbitrage depuis quelque temps qui, du côté du pouvoir, cherche à nous persuader que le pouvoir d'achat a augmenté. Et de l'autre côté, il me semble que l'expérience de la quotidienneté de beaucoup de gens montre que cette appréciation est totalement fausse. Qu'en pensez-vous vous-même, Benjamin?
Vous êtes d'accord avec ça, Benjamin Cauchy? Baisse du pouvoir d'achat et paupérisation des Français?
Oui, alors, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Lorsque l'on fait, par exemple, la suppression de la taxe d'habitation, je crois que beaucoup de Français, si on devait faire un sondage, l'ont déjà oublié. Et ça, je le tiens des propres mots d'Edouard Philippe, qui me l'avait dit en face, en me disant, vous savez, j'ai dans les cartons cette volonté de supprimer la taxe d'habitation, mais je sais qu'à la fin du quinquennat, les Français l'auront oublié. De la même manière que s'ils veulent baisser les taxes sur le carburant, ils sont persuadés que les gens l'auront oublié. Donc, ce que je veux dire par là, Monsieur Bilger, c'est que entre la baisse du pouvoir d'achat, peut-être sur certaines taxes qui ont été diminuées par le gouvernement, sont complètement passées aux oubliettes de façon factuelle par l'opinion publique, parce que, lorsqu'ils vont faire leurs courses et qu'ils prennent leur caddie ou leur petit panier en plastique, comme moi je le fais quand je vais chez Lidl ou ailleurs, et ben avant, quand on avait un panier, on en avait pour 50 euros, maintenant quand on remplit le panier, c'est 100 euros. Moi, à l'époque de mes parents, c'était 500 francs, 75 euros, on remplissait un caddie.
C'est vrai.
Ça, je vous parle de ça, fin des années 90. Les salaires n'ont pas été multipliés par 3 ou par 6 depuis la fin des années 90. Et c'est ce que j'allais vous dire. Pour moi, effectivement, je pense, je déborde Monsieur Bilger, mais pour moi, le vrai enjeu en termes de pouvoir d'achat, c'est pas le revenu, c'est pas le pouvoir d'achat, c'est le logement. Le logement, c'est 40% du budget d'un foyer. C'est là-dessus absolument que la prochaine mandature, que le prochain quinquennat, quel que soit le président ou la présidente, devront appuyer. Parce que sinon, on va tourner autour du pot entre diminuer une taxe, augmenter une autre, soulager les salariés, charger les retraités, comme l'a fait Emmanuel Macron au début du quinquennat, ne l'oublions pas, les retraités ont perdu du pouvoir d'achat. Donc voilà, donc de façon sectorielle, effectivement, le gouvernement a pu donner l'impression qu'il baissait certaines charges, certaines dépenses, mais force est de constater que les charges contraintes font que le pouvoir d'achat des Français diminue.
Caroline Pilastre, court, parce qu'on retourne aux 0,826-300-300.
Oui, le gouvernement ne veut pas d'une taxe flottante. Et là où moi je suis en désaccord avec toi.
La TIPP flottante qui avait été faite sous Jospin.
Tom, c'est que tu parlais des taxes, mais je suis désolée. c'est 60% de taxes un litre d'essence. Donc c'est bien l'État qui est responsable aussi en termes de régulation.
Ah bien sûr.
Vous avez Monsieur Bertrand qui en 2016 avait mis en place un chèque carburant d'un montant de 20 euros qui était donné sous condition et c'était très bien passé.
Ah oui, alors, par contre, tout le monde dit que ça va être un peu une usine à gaz parce que là.
Ça ne touche que 10 000 personnes dans les Hauts-de-France. Ça ne touche que 10 000 personnes dans les Hauts-de-France.
C'est vrai, il y a un problème.
On part au 0800 26 300 300. On était à Paris, là on va un tout petit peu au nord, direction Saint-Gratien dans le Val-d'Oise. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Alors, Nadia pensait que c'était déjà bien. Vous n'êtes pas d'accord avec Nadia?
Pas du tout. Je pense que moi, ce qui m'inspire, c'est 100 euros. D'abord, 100 euros sur un an, ça fait un peu plus 8 euros par mois supplémentaires.
C'est ça.
Ensuite, 100 euros quand on est une femme seule avec deux enfants ou trois enfants, c'est pas la même chose que 100 euros quand on est un couple qui gagne entre 5 et 10 000 euros. Ensuite, 100 euros, c'est-à-dire les 4 milliards que ça va coûter, c'est simplement la TVA que représente les taxes supplémentaires que l'État a perçues sur l'augmentation des carburants. Et quand on regarde la paupérisation de la population, ces 40 dernières années, on peut imaginer que 100 euros sur un an, c'est de la poudre aux yeux. C'est vraiment, je pense que le gouvernement aurait pu faire soit mieux, soit différemment, et en tout cas faire payer davantage les sociétés comme Amazon ou autres qui pourraient effectivement nous faire collecter les impôts et donc diminuer les nôtres, enfin faire des choses un peu plus évidentes que simplement.
Mais justement, Fabrice, je vais poser la question à Benjamin Cauchy. Est-ce que pour vous, le pouvoir d'achat, vous avez entendu Fabrice de Saint-Gratien, le pouvoir d'achat et la réforme fiscale vont être des points clés de la prochaine présidentielle? Parce qu'il y a eu un sondage qui est tombé cette semaine, le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français.
Oui, alors à l'heure d'aujourd'hui, 41%, effectivement, c'est la préoccupation première des Français, le pouvoir d'achat. Il est évident que on ne peut pas mener une bonne politique lorsque son peuple a le ventre vide. Donc forcément, le pouvoir d'achat, lorsqu'il y a des difficultés de fin de mois qui sont récurrentes, là nous sommes le 22 octobre, il y a des millions de Français qui sont à découvert, il y a des millions de Français qui peuvent plus aller faire leurs courses. C'est une réalité. Donc évidemment qu'en 2022, ça sera un sujet majeur. Mais pour moi, ça ne sera pas le seul. Ça ne sera pas le seul parce que vouloir préserver son pouvoir d'achat, c'est aussi préserver son industrie, c'est préserver son emploi, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de dumping social, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de contrefaçon qui traverse nos frontières. Donc au-delà du pouvoir d'achat, c'est aussi la préservation de notre mode de vie, de notre industrie. Je crois qu'il va falloir jouer là-dessus et essayer d'attirer par des mesurettes uniquement avec un chèque de 100 balles pour flatter les bas instincts en disant regardez, ils nous donnent de l'argent, c'est pas suffisant. C'est comme si on mettait un pansement sur une fracture.
Et surtout, depuis le début, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il faut simplement s'attaquer à la question des charges, que les charges en elles-mêmes, on ne les maîtrise pas totalement, même si effectivement il y a des taxes qu'on peut ajuster, mais après le budget de l'État est impacté, et après forcément les gens se plaignent, ce qui est parfaitement normal si on détruit et on détricote les services publics ou on baisse des allocations. Donc du coup, ce n'est pas un bon mode d'action. Ce qu'il faut faire, c'est évidemment faire en sorte d'avoir une politique économique qui soit la plus expansionniste possible, mais en tout cas, non, mais pas uniquement dans la question de la redistribution, dans les investissements d'avenir, dans des secteurs d'avenir, le renouvelable ou d'autres secteurs qui peuvent ensuite entraîner des hausses de revenus. Je pense que la question des revenus en elle-même, elle est absolument centrale. Moi, je le constate beaucoup autour de moi, dans des secteurs très différents, pour des âges très différents et dans des gens qui sont dans des secteurs d'activité très différents. Donc, c'est quand même le point central. On ne pourra pas maîtriser du jour au lendemain la question de l'approvisionnement énergétique, de l'explosion des prix des hydrocarbures et on ne pourra pas non plus baisser les dépenses public du jour au lendemain, même si certains le veulent.
Non mais Tom,
c'est les dépenses contraintes.
Sur
l'augmentation des revenus
sociales, je pense qu'il y a des coupes sèches à faire quand même.
Oui, exactement. À l'instant T, les gens ont besoin de pragmatisme. S'ils doivent remplir, excusez-moi, c'est pas du pathos de dire ça, mais leur frigo, mettre de l'essence dans leur voiture, on n'est pas en train de te parler justement d'industrie, d'avenir, d'écologie, de ce que tu veux. Donc c'est une question de charge et c'est une question d'impôt. Je suis navré. On est un des pays qui payons le plus d'impôts.
Oui, je suis désolé, mais s'il n'y a pas d'industrie compétitive, si on ne protège pas nos frontières et qu'on ne protège pas l'emploi dans notre pays, nous aurons des millions de chômeurs.
Mais là, Benjamin, vous avez raison, mais on parle de souverainisme.
Oui, bien sûr.
National, et on parle de relocalisation. dans ce sens-là. Mais là, c'est bien du pragmatisme et du rationalisme.
Absolument, voilà. Absolument. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas mentir aux Français. Mmh. On va pas sortir le chéquier en permanence et sortir de l'argent immédiatement. Là, il faut être objectif. C'est vrai que ça va faire du bien à des millions de Français de recevoir ces 100 balles. C'est une réalité. Maintenant, ce n'est pas en distribuant 100 balles tous les 6 mois qu'on va faire en sorte que le pays aille mieux et qu'il y ait des millions de Français qui retrouvent le chemin du travail. C'est juste ça. Et que donc, une bonne politique pour le prochain quinquennat, c'est effectivement être consciencieux du pouvoir d'achat des Français, mais faire en sorte qu'il y ait des politiques publiques qui mettent les Français au travail, le retour au travail.
Merci beaucoup Benjamin Cauchy, entrepreneur et ancien gilet jaune. On remercie Nadia et Fabrice, beaucoup d'appels. On peut malheureusement pas prendre tout le monde, mais on va y arriver parce qu'il y a de plus en plus d'appels et on est très contents sur Sud Radio. Verdict sur Twitter, vous êtes 96,8% à dire non, ce chèque de 100 euros n'est pas à la hauteur. Les vraies voix, ça vous dirait un petit quiz présidentiel de la semaine ?
Yes. Avec plaisir.
Et ben c'est tout de suite.
J'étais dur à cuire, elle m'a converti, la fine mouche.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Top Conan et Caroline Pilastre. Un petit quiz présidentiel, ça vous va les amis ?
Ah bah oui.
Et ben c'est
avec
parti.
Avec plaisir.
Alors, c'est les actualités, les indiscrétions. On redécrypte ce qui s'est dit cette semaine d'assez cocasse, plus ou moins cocasse, pour la présidentielle. Première question. Pourquoi le candidat Les Républicains Michel Barnier est-il pointé du doigt ? Alors, plusieurs propositions, écoutez bien. 1. Le candidat des LR a omis de déclarer un bien immobilier au fisc. Réponse 2. Michel Barnier aurait milité activement auprès de Christian Jacob pour qu'il n'y ait pas de primaire. Il y est d'ailleurs arrivé. Et enfin, Michel Barnier n'était pas à jour de cotisation. Il n'avait pas réadhéré au parti Les Républicains depuis 2018.
On peut répondre ?
Oui.
3 ?
Oui, bonne réponse de Caroline Pilastre. Mmh. On l'a répondu le plus vite. Mmh. Hein. Il faut être le plus rapide.
C'était question pour un champion, en fait.
Oui, là, c'est pour une championne. Michel Barnier donc n'avait pas renouvelé sa cotisation depuis 2018, c'est-à-dire depuis 3 ans. Vous êtes surpris de ce non-renouvellement de cotisation, les vraies voix, Philippe Bilger ?
Non, mais il arrive qu'on soit tellement obsédé par le pouvoir qu'on oublie les coulisses des cuisines.
Ça s'appelle la phobie administrative, comme un ancien ministre.
Quoi,
ouais. Voilà.
Il nous a fait un thé de nous. Hein.
Ouais, c'est une forme de snobisme assez typique, non ?
Voilà.
Oh, c'est de la procrastination peut-être aussi, hein, je sais pas.
Ah, la procrastination, oui, beau mot, mais là, c'est une longue procrastination, 3 ans.
Ouais. 3 ans.
Alors, Philippe Bilger nous a parlé de lui hier dans son tour de table de l'actualité. Qui s'est retrouvé hier en tête-à-tête avec François Hollande ? Réponse 1, Édouard Philippe.
Hidalgo.
Philippe Bilger.
Que la musique.
Alors oui, pour info, c'est Anne Hidalgo qui a demandé à rencontrer l'ancien chef de l'État. Que vous inspire cette rencontre, les vraies voix, Tom Conan ?
Bah oui, c'est un peu dans la même veine, c'est assez mou.
C'est un peu du flambi, tu veux dire, c'est
ça ? Non, je vais pas être méchant. Non, mais après, honnêtement, c'est un peu la même ligne.
Que vous
c'est
êtes une méchant. Gauche.
Non, mais
que
c'est une ligne, disons, qui est un peu incompréhensible, quoi. Non, mais j'aimais bien Hollande sur certains aspects. Mais bon, dans les faits, il y a eu quand même des manques assez importants. Et il me semble que chez Hidalgo, qui pareil a pas mal de qualité, il y a aussi un manque de consistance, je sais pas, de clarté. Non, mais c'est dommage que c'est des gens qui sont de bonne volonté avec des éléments idéologiques dans lesquels je peux me reconnaître. Mais après, ça manque de substance, de charisme et de force.
Une chose quand même, hein,
heureusement que vous êtes de gauche, ça.
Bah, oui, c'est...
Bah, il est honnête,
excusez-moi, il parle le vrai. Voilà. Mais vous avez vu la nouvelle, quand même. Hein. François Hollande a dit qu'il allait voter pour Anne Hidalgo, donc elle aura déjà au moins 2 voix.
Bah, elle sera mais peut-être à plus de 5%, elle sera remboursée pour la campagne.
Mais Philippe,
oui.
C'est la seule dont il dit bien dans son livre, à gauche.
Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Je l'ai pas lu en entier, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est le cas. Caroline Pilastre.
De toute manière, c'est le PS. Donc j'ai envie de vous dire, là, ils sont totalement en famille, Hollande et Hidalgo. Moi, ça m'inspire rien de particulier, en dehors que ce soit pas ma paroisse. Mais c'est surtout, je voudrais revenir un petit peu sur le livre de François Hollande. C'est facile de balancer et de dénoncer, même s'il peut dire des choses vraies dans le livre. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'aigreur et de frustration. Alors, et je trouve que c'est totalement inélégant de faire ça, alors qu'il ne s'est même pas présenté à sa réélection. J'ai trouvé ça lamentable.
Vous savez qu'il y a des personnes
qui ont... Mais non !
Vous savez qu'il y a des personnes récemment qui ont voulu faire revenir Jospin.
Oui, ils sont allés à l'île Dorée.
Non, mais je trouve ça très beau. C'est putain, j'ai désespéré, mais pour le coup, Jospin. Ah, bah,
les éléphants, le retour.
Bah, Jospin, pour le coup, c'est quelque chose d'assez impressionnant.
Dernière question, les vraies voix.
Je rejoins Tom.
À l'île Dorée ?
Non.
Dernière question. Le syndicaliste Anas Kazib a tenu son premier meeting de campagne. Pourquoi aujourd'hui fait-il polémique ? 1. Il s'est félicité de ne pas avoir de drapeau français à son meeting, il a d'ailleurs tweeté « Tu n'en verras jamais ».
Oui, c'est la une.
Bon, bah c'est Philippe
Liger. Voilà, pardon. Bah,
c'est toujours l'homme qui est le plus
rapide. Non, mais je savais aussi.
Et donc, oui.
C'est bien la première fois que je dégaine plus vite que les autres.
Ah bah, ça se discute. Donc, vous avez gagné. Philippe Bilger, 2 points. Caroline Pilastre, 1 point. Et Tom Conan, vous êtes Fanny. Donc, il faudra payer la tournée.
Ouais, bah, bien, pas de problème.
Mais j'ai triché, Philippe.
Ah bon ?
J'ai triché 2 fois. Hein.
Oui, bon, alors, c'est vrai. Vous êtes disqualifié. Voilà. Toutes les questions. C'est bien d'être
en général, vous donnez toujours le prix. Vous donnez toujours le prix à Caroline parce qu'elle est une femme.
Non, arrêtez d'être jalousie.
Mais non,
c'est pas
mais
vrai,
non, mais non. À 18h30, notre grand débat. Le zémourisme est-il en train de s'installer dans le paysage politique français ? Vous êtes 86% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Caroline Pilastre, chroniqueuse dans le domaine du handicap visuel, et Tom Conan, auteur, artiste, etc.
Je me permets encore.
J'ai fait une erreur.
Mais oui, mais c'est pas grave, vous faites tout le temps la confusion. Chroniqueuse Sud Radio et consultante handicap visuel.
Handicap visuel.
Parce que chroniqueuse handicap visuel, c'est un peu bizarre.
Oui, je fais mon mea culpa, ça m'apprendra
grave,
à ne pas lire mes
non.
notes. Je vous prie de m'excuser.
Mais je vous pardonne. Avec grand plaisir.
18h30, notre grand débat. Le zémourisme est-il en train de s'installer dans le paysage politique français ? Vous êtes désormais 85,1% à dire oui. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Ça va les vraies voix ?
Très bien.
Super.
Prêt pour une deuxième heure ?
Au taquet.
Eh bien écoutez, un petit tour de table de l'actualité, ça vous dirait ?
Ben oui.
Eh bien c'est parti.
Partant pour un deuxième tour.
Non, il faudrait sérieusement penser à grandir la table.
À mon tour, à mon tour.
Le tour de table.
De l'actualité.
Et Caroline Pilastre, vous nous emmenez
en
plein
Suède.
Nord, en Suède.
Exactement. En fait, je vais vous parler de puces sous la peau. La réalité dépasse maintenant la science-fiction. En mai 2018, vous avez 3000 adeptes suédois sur 10 millions d'habitants qui ont décidé de se faire implanter une puce électronique en guise de porte-monnaie numérique. Donc, ça les aide au quotidien puisque ça peut remplacer des clés, des tickets de métro, des billets de train. Voilà, on est un peu dans un monde de Minority Report. Ce sont des cyborgs pour moi, ces gens. Et en fait, on peut lire cette puce lorsque vous avez la main sur un lecteur de cartes. Aux États-Unis, vous avez des employeurs qui, dans la foulée, ont voulu rendre obligatoire le système d'implantation de micropuces auprès de leurs employés. Mais ils ont été déboutés puisque ça n'était pas autorisé par la loi.
Philippe Bilger, c'est pas terrifiant ce monde où on vous met une puce. Vous arrivez à l'usine, vous avez même plus besoin de badger ou d'aller à la pointeuse. Vous allez au supermarché, vous payez. Vous trouvez pas ça terrifiant ?
Mais vous qui me connaissez bien, mon cher Philippe, vous devinez bien que je n'ai pas attendu ce qu'a décrit Caroline pour trouver le monde terrifiant. Rappelez-vous nos équipés dans les aéroports,
oui.
Où vous étiez le seul à comprendre ce qu'il fallait faire, où j'étais d'une incurie totale.
Alors, je vais expliquer, c'est que vous ne savez pas faire une carte d'embarquement et d'imprimer une étiquette de bagage.
Non,
on part en déplacement et je m'occupe de vous.
Imaginez ce que Caroline décrit, alors là, c'est plus de la terreur, c'est l'apocalypse pour moi.
Apocalypse Now pour Philippe Bilger. C'est pas terrifiant.
Alors,
Tom
si,
Conan.
C'est terrifiant, mais en fait, moi, personnellement, je trouve ça totalement terrifiant. Surtout le fait que l'employeur s'arroge le droit, enfin, croit s'arroger le droit de l'imposer, c'est absolument.
Heureusement
dingue.
Qu'il y a des tribunaux, d'ailleurs.
Voilà, heureusement, qu'il y a, de loi
heureusement qu'il y a ce qu'on appelle le droit, en effet.
Ouais,
ouais. Mais par ailleurs, en fait, ce que je trouve quand même encore plus flippant, c'est que c'est certain que ce type de choses va arriver à un moment donné. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui voudront bien consentir à ce type d'implantation. Aujourd'hui, on a bien des montres connectées qui arrivent à mesurer notre pouls, le nombre de marches qu'on a fait dans la journée, les escaliers qu'on a montés, la distance et évidemment la localisation avec un GPS très précis, comme des éléments extrêmement sophistiqués et personnalisés avec des fuites de données éventuelles. Je veux dire, on peut toujours nous voler la montre, etc. etc. Donc fondamentalement, je suis certain qu'en fait, les gens auront soif de ce type de choses. Qu'aujourd'hui, avec, vous savez, l'homme augmenté, c'est tout un thème quasi philosophique qui se développe beaucoup, qui est au carrefour à la fois de la philosophie et des nouvelles technologies, mais il y a aussi un vrai engouement, une vraie attente, parce qu'aujourd'hui finalement il y a un monde de possibles qui est de plus en plus large, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec des multiples vies finalement qu'on essaye de mener alors que notre espérance de vie est toujours la même. Donc je suis certain que des personnes voudront un petit peu tester ce genre de choses, quitte à prendre des risques elles-mêmes éventuellement, pour pouvoir avoir justement toutes ces vies en une.
Mais Caroline Pilas, ça vous fait pas peur quand vous voyez le contrôle social chinois, par exemple, où vous êtes fliqué matin, midi et soir. Là, maintenant, il faut aller boire un café en terrasse, on est fliqué, il faut donner un pass sanitaire, alors qu'on l'a appris hier soir, j'ai trouvé ça génial. On peut pas boire un café en terrasse tout seul au bord de mer, mais on pourra aller dans un meeting politique fermé avec 3000 personnes. Est-ce que le pass sanitaire, c'est pas la preuve que c'est une arme politique et absolument pas une arme de santé?
Ah, mais moi, depuis le départ, je suis totalement d'accord avec toi. Je te rejoins. Pour moi, c'est plus une arme politique, bien évidemment. Et d'ailleurs, on sait très bien que le pass, parce que ça a été voté récemment à l'Assemblée, va perdurer jusqu'au mois de juillet. Et après, peut-être que par la suite, on va continuer à vivre avec ce système.
Pas la peine de s'arrêter, là. Après, ça fera un an qu'on l'a.
On ne sait pas.
C'est ad vitam aeternam.
Bien sûr que moi, je suis, comme mes amis, très anxieuse de, entre guillemets, ce nouveau monde. Alors oui, on est fliqué, puisqu'à partir du moment où déjà on a des comptes sur les réseaux sociaux, on nous envoie des algorithmes qui sont en rapport avec les comptes qu'on suit, ce qu'on aime, la publicité, bien évidemment. Mais là, je trouve que le système de puces, alors moi, je suis contre à 100 000%. Je rejoins totalement Philippe, parce que si on devait prendre l'avion, les transports, eh bien, je serais assistée comme lui, en tant que malvoyante et n'étant pas du tout geek, malgré le fait d'être hyper connectée. Donc, il faudrait que vous vous occupiez de moi aussi, messieurs. Hein,
mais
désolé,
avec plaisir.
Voilà. Mais non, c'est un drôle de monde. Et puis, on pourrait avoir aussi toutes les infos sur le plan médical, qui sont pour l'instant quand même confidentielles avec ces puces. Hein.
Ouais, juste sur le pass, comme vous avez évoqué le pass, je ne pense pas du tout que le pass sanitaire en France soit une arme politique. Elle est vraiment une arme pour encourager la vaccination. Et de fait, ça a plutôt marché, parce que dès que ce pass a été mis en place, moi je vois, il y a des personnes autour de moi qui pouvaient être un peu récalcitrantes.
Si vous ne pouvez plus travailler, c'est compliqué. Hein.
Une vaccination de toute manière déguisée, t'es obligé de le faire.
Mais moi, comme j'étais plutôt favorable à une vaccination obligatoire, c'est finalement un moyen assez détourné. J'aurais même préféré la vaccination obligatoire. Mais pour des raisons légales assez évidentes, sur lesquelles on ne peut pas revenir maintenant, le droit à disposer de son corps, etc., bien sûr, qui sont des valeurs constitutionnelles, c'est le pass qui a été choisi comme option. Donc ce n'est pas une arme politique. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Néanmoins, c'est vrai que si ça perdurait dans le temps, alors que le risque épidémique était supprimé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, là, ça pourrait le devenir. Et là, ça serait dangereux, en effet.
Les vraies voix, ça vous dirait, dans quelques instants, d'aller du côté de 7?
Ah oui, avec plaisir.
Et oui, on va aller du côté de 7. On va retrouver Sylvie Raffard, directrice de l'espace Georges Brassens. Il y a une exposition spéciale. On va parler avec elle de cette exposition. Et il va même y avoir, enfin, il y a maintenant un timbre à l'effigie du chanteur et du poète qui est né il y a 100 ans aujourd'hui, à 7, une ville magnifique dans l'Hérault. Ça me donne envie de manger des tielles et une bourride avec un verre de pitbull de Pinet, même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et vous me mettrez 6 huîtres de bousille, là on reste vraiment dans le local. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Tom Conan et Caroline Pilastre. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui puisqu'il était né le 21 octobre 2021 à 7. 1921 à 7, pardon. 7 où on écoute Sud Radio sur 104.9. Et pour cet anniversaire, une exposition est à l'affiche à l'espace Georges Brassens de la ville. Nous sommes en compagnie de Sylvie Raffard, directrice de l'espace Brassens à 7. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bienvenue sur Sud Radio. Alors tout d'abord, présentez-nous l'espace Georges Brassens. Il est juste en face du cimetière du Pi, le cimetière où l'artiste est enterré.
Exactement. Nous sommes liés, j'allais dire, par le lieu qui a voulu être ici il y a 30 ans par les volontés politiques et par Régine Montpellier, récemment malheureusement décédée. Et c'est vrai que les personnes viennent visiter l'espace, vont ensuite comme un pèlerinage auprès de sa...
Auprès de mon arbre, non ?
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Alors, parlez-nous justement de cette nouvelle exposition.
Alors, il y a l'exposition autour des timbres, en fait, puisqu'il y a une avant-première. Nous avons sorti, grâce à la collaboration avec La Poste et l'association philatélique de Sète, un timbre à l'effigie de Brassens pour son centenaire. Et actuellement, ce vendredi et demain, 23 octobre, nous avons les oblitérations du premier jour.
Alors justement, Sylvie Raffard, je vous donnais un scoop. Vous savez tout de Brassens, mais Brassens avait écrit des chansons pour toutes les vraies voix du jour. Et avant de donner la parole à Philippe Bilger, voilà la chanson qu'il avait écrite en pensant à Philippe Bilger.
Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson.
Philippe Bilger.
Non, 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 c'est pas possible. Non, justement, au fond, est-ce que,
assumer, hein.
Que pensez-vous, chère madame, de alors que vous avez fait cette exposition, je me demande quel serait l'état d'esprit de Georges Brassens qui a écrit les magnifiques trompettes de la renommée devant ce monde où la transparence est absolue et devient véritablement d'une totale indécence. Je crois qu'il aurait été très mal à l'aise. Qu'en pensez-vous ?
Et vous êtes très bien embouché aujourd'hui, Philippe Bilger. C'est le virapin.
Oui, alors là, je pense tout à fait que là, au niveau de l'actualité, je pense qu'il aurait vraiment ragé aussi de quand même une forme d'opacité qui reste. Mais je crois qu'il aurait été très fier aussi du musée, de la façon dont il vit, avec
sûrement.
Toutes les actions que nous avons entre la jeunesse, l'accessibilité de tous, avec notamment là, récemment une tablette sur le langage des signes qui est donc à disposition de ces personnes.
Alors, vous êtes toujours
oui.
avec nous, Sylvie Raffard ? Oui,
oui,
alors,
oui, oui, il y a eu une petite
alors,
coupure, excusez-moi.
Georges Brassens avait écrit une chanson pour Caroline Pilastre, ah. mais il n'y a que la première partie qui la concernait, on l'écoute.
Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur.
Alors, c'est une jolie fleur, mais c'est absolument pas une peau de vache, elle va
non,
vous poser une question.
Non, c'est une vraie voix, c'est pas pareil.
C'est une vraie voix, voilà.
Oui, bonsoir madame, moi j'aurais aimé savoir, hors période Covid et jauge, oui. combien est-ce que vous avez de visiteurs annuellement, s'il vous plaît.
Oh, annuellement, on a pratiquement 50 000 visiteurs par an. Donc, c'est assez important. Et depuis, nous, l'ouverture des 30 ans du musée, il y a à peu près plus de 2 millions de personnes, de visiteurs qui sont venus de tous âges.
Absolument.
Voilà. Hein.
Alors, Tom Conan étant de gauche, Georges Brassens avait écrit cette chanson pour lui, il va aussi vous interpeller.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid.
Tom Conan, ça vous va ça, l'Auvergnat,
ça me va
l'homme
très
bien. Généreux.
Ah ouais, non, ça me... Et justement, en parlant de ça, est-ce que aujourd'hui on pourrait se poser la question de l'engagement politique de Brassens ? Il me semble qu'il avait été plutôt dans un non-engagement, plutôt anarchiste, etc., comme on l'a dit.
Anarchiste.
Mais
oui,
comment est-ce qu'aujourd'hui vivrait cette situation ? Est-ce qu'il s'engagerait ? Toujours la question que je me pose, des personnes comme lui, qui avaient quand même des valeurs, qui ont mis toute leur tripe, toute leur âme dans leurs chansons, est-ce qu'il prendrait parti et surtout pour quelle direction ?
Sylvie Raffard.
Alors, pour quelle direction ? Ça serait difficile de parler à sa place, mais en tout cas, c'est sûr que là, je pense que c'est vrai qu'il a pris la chanson et l'écriture pour développer et faire de ses valeurs quelque chose qui soit communicationnel, j'allais dire, et que pour tout le monde l'entende. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'heure actuelle, je pense qu'il aurait été encore plus présent, j'allais dire, au niveau des syndicats et autres.
Alors,
voilà.
Justement, je voulais vous poser une question, Sylvie Raffard, avant de redonner la parole aux vraies voix. Brassens, voilà. Ça parle aux jeunes ?
Ah oui, ça parle beaucoup aux jeunes. Là, nous avons, entre autres, sur 7, mais aussi sur toute l'agglomération et voire au point de vue national, nous avons des expos itinérantes spécifiques justement pour la jeunesse. Elles sont régulièrement, bien sûr, à disposition et prises aussi. Et puis nous avons beaucoup d'actions jeunesse au sein de l'établissement qui sont ouvertes à toute personne qui réserve. Et par exemple, on a la petite enfance le lundi matin, les 0-3 ans, qui viennent découvrir le monde de Georges autour de ses thématiques, des instruments, au niveau des bestiaires. Et ça, par exemple, nous l'avons lancé depuis le 4 octobre et c'est formidable. Oui, oui, il y a vraiment un besoin et toutes les écoles de la ville aussi participent à des projets comme pour Centenaire. Il y a à peu près 950 enfants qui ont participé à faire des sculptures ou des dessins ou autres œuvres exposées dans les vitrines de la ville.
Philippe Bilger.
Je suis persuadé que Georges Brassens, s'il vivait encore aujourd'hui, serait dans le même registre de compréhension, de tolérance et, je dirais, d'une certaine manière noble d'incertitude. Parce qu'il est intéressant de voir comme l'anarchiste dur qu'il était aux origines n'a pas cessé d'évoluer et ça montrait sa profonde intelligence. Il a même aimé la police dans ses dernières chansons.
Sylvie Raffin.
Oui, alors oui, c'est vrai tout à fait que voilà, il y avait souvent aussi des revirements de situation parce que malgré ses positions très fortes et très dynamiques, il pouvait aussi faire certaines concessions et admettre aussi de belles choses aussi, et donc il modifiait dans ses chansons la façon dont il voyait pour le transmettre aussi, voilà.
Oui, c'est peut-être juste que l'embourgeoisement mène à la droitisation, c'est un phénomène assez classique qui souffre d'une exception notable, Victor Hugo.
C'est l'inverse. Non, mais je pense que peut-être voilà, cette période serait terrible pour des gens de cet acabit.
Voilà une étrange définition de la droite.
Parce que les personnes comme Monsieur Brassens étaient des vraies voix, étaient extrêmement honnêtes, ne jouaient pas la carte de la starification.
Ah, c'est vrai qu'il était très simple.
Et ils étaient quand même dans des périodes où il y avait une liberté. Il y avait une insouciance qui n'existe plus aujourd'hui.
C'est vrai, c'était les années 70, il est décédé en 80.
Et moi, je voudrais juste vous demander, madame, très rapidement, bon, monsieur Brassens fait partie du patrimoine français. Ses textes sont magnifiques et resteront, comme on l'a tous dit depuis le départ. Est-ce que les enfants ont envie d'écrire des textes? Est-ce que ça leur donne envie? Comme si je devais faire un parallèle actuel avec le slam et Grand Corps Malade, vous savez, vous avez des ateliers, en fait, où ça donne envie aux enfants d'apprendre et d'écrire encore mieux le français en s'appropriant ces textes, justement.
Oui, alors là, j'ai justement ce projet de développer aussi sur l'année 2022 vraiment ce rapport à l'écriture. Nous avons justement là un groupe qui va bientôt jouer le 4 novembre avec Monsieur Kelembe pour faire un travail avec les adolescents et particulièrement avec demi-portion. Parce qu'il faut savoir aussi que Brassens draine, j'allais dire, différents styles musicaux et demi-portion est un de ses fans, j'allais dire. Et nous avons un projet aussi de travail autour de ce style de musique et le slam aussi, bien entendu.
Génial. Alors, je vais donner une info à l'antenne, Sylvie Raffard. Sud Radio est partenaire du spectacle 100 ans Brassens qui se jouera à Bobino, la salle fétiche de Georges Brassens à Paris. Ce sera les 15 et 16 novembre, donc dans un tout petit mois. Et c'est un spectacle écrit par Fred Carato avec notamment Eric Collado et Nelson Montfort qui chantent très bien. Et c'est un hommage magnifique à Georges Brassens. Les places sont en vente et Sud Radio est partenaire pour ce spectacle qui sera, je vous donne les dates, de Paris, les 15 au 16 novembre 2021 à 20h. Merci beaucoup Sylvie Raffard d'avoir été avec nous sur
merci
Sud Radio.
Merci beaucoup de votre invitation.
Eh bien, merci à vous. Dans quelques instants, le grand débat des vraies voix. Le zémourisme est-il en train de s'installer dans le paysage politique français? Vous êtes 87,3% à dire oui. On va en parler avec François Crosse de l'IFOP.
De ces pipes qu'on fume en levant le front, mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Tom Conan et Caroline Pilastre.
Qui sera le prochain président de la République? Voilà donc la grande question.
Éric Zemmour. Éric, moi je lui fais confiance, il incarne quelque chose.
Il y a des gens depuis des mois, voire depuis des années, qui me poussent à être candidat.
Éric Zemmour a besoin de gens autour de lui, besoin de gens pour le soutenir.
J'ai envie parce que je pense que la France étant dans un état absolument lamentable.
Il incarne, oui, une sorte de France éternelle.
Il faut renverser la table.
Sur mon mur, j'ai un poster d'Éric Zemmour.
C'est une étude de l'IFOP pour la LICRA, doublée d'une interview de son auteur François Crosse dans le Figaro, qui fait beaucoup réagir aujourd'hui. Une étude qui se veut, je cite, être un observatoire du zémourisme et qui dit que, Je cite, « Le phénomène Zemmour prend racine dans une société française profondément acquise à ses thématiques et qu'Éric Zemmour n'est pas une bulle médiatique. » Une affirmation confirmée aujourd'hui par un deuxième sondage qui place Éric Zemmour au second tour de la présidentielle. François Cros ne nous en voudra pas puisque c'est un sondage Ipsos pour le journal Le Monde. D'où notre grand débat, le zemmourisme est-il en train de s'installer dans le paysage politique français? Eh bien vous êtes 83,7% à dire oui. Avec nous François Cros, directeur du pôle politique de l'IFOP, bonsoir.
Bonsoir.
Vous décryptez votre étude en affirmant, je cite, « Le zemmourisme forme à mes yeux un syncrétisme ambitieux des trois droites raymondiennes, donc de René Raymond, en combinant à la fois l'autoritarisme de la tradition bonapartiste sur les enjeux régaliens, le libéralisme économique de l'orléanisme et le conservatisme culturel de la droite légitimiste. » François Cros, est-ce que finalement Éric Zemmour n'est pas l'union des droites à lui tout seul?
Non, parce que un des risques qu'il a, lui, c'est d'être de rassembler uniquement le noyau des électeurs de droite qui sont à la fois autoritaires, libéraux et conservateurs. Vous comprenez ? C'est ceux qui remplissent ces trois conditions. Or, la proportion d'électeurs qui remplissent ces trois conditions, qui sont quand même restrictives, est naturellement plus restreinte que ceux qui en remplissent au moins une. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, un des soucis, c'est que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'électeurs de droite qui ne sont pas aussi sécuritaires ou qui sont, par exemple, beaucoup moins conservateurs que lui sur les questions de société. On l'a vu, par exemple, sur la question des femmes ou des LGBT qui sont très clivantes chez les Français. Donc, comment vous dire, bien sûr que cette enquête qui vise à regarder vraiment quel est l'état des électeurs qui votent pour des candidats national populistes comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen, a un intérêt, c'est qu'elle montre que il y a une véritable, ce n'est pas une bulle sondagière, ce n'est pas une construction médiatique, il y a une véritable emprise des idées et des candidats sur ces idées, sur ce courant politique, mais quand même, il faut quand même relativiser les choses dans la mesure où il a une emprise sur un créneau politique, mais celui-là n'est pas non plus extensible à l'infini.
Philippe Bilger.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, François Cros, même si vous avez parfaitement défini les trois personnalités qui composent une personnalité de droite, qu'au fond, le zemmourisme est moins un projet, moins, je dirais, une idée, plutôt que l'acceptation d'une vision extrême du réel mélangée à une forme à laquelle on n'est plus habitué en France? Est-ce que le zemmourisme ne serait pas davantage une forme de vérité, de brutalité, de sincérité, poussant la droite jusqu'à ses extrêmes limites, plutôt qu'un programme?
François Cros.
Quand on demande, justement, c'est une très grosse enquête qu'on a réalisée là pour la LICRA, c'était 5000 personnes, c'est 5 fois plus gros qu'un électeur classique, et on a pu donc analyser plus précisément ce que souhaitaient les raisons pour lesquelles les électeurs votaient Zemmour. On a donc un échantillon de 500 Zemmouriens, si vous me pardonnez l'expression, qui nous expliquaient pourquoi ils ont voté pour lui. Et c'est là où je vous rejoins, c'est que la première raison pour laquelle ils votent pour lui, c'est qu'ils partagent son constat, généralement assez sévère pour ne pas dire pessimiste sur tout un ensemble de sujets liés à la situation de la France sur le plan démographique, économique, culturel, etc. Et c'est d'abord parce qu'il partage son constat et aussi parce qu'il partage aussi ses solutions sur des questions régaliennes de type sécurité, immigration. Pour le reste, il est sûr que c'est un homme qui vient de nulle part, qui a déboulé dans la campagne sans être marqué, ni avoir une force politique structurée derrière lui, ni un programme complet. On lui reproche beaucoup d'être monothématique. Bref, y compris ses électeurs savent que ce n'est pas l'alpha et l'oméga des candidats qu'il souhaiterait forcément, puisque je pense bien que entre la fonction tribunicienne de contestation qu'il incarne parfaitement et puis un véritable homme qui serait un homme d'État qui serait capable de mener rapidement les réformes de fond, il peut avoir encore un espace encore important.
Tom Conan.
Ouais, moi, étonnamment, je pense qu'en fait, c'est une figure qui est rendue possible, celle de Zemmour, grâce à Internet, à ce qui s'est passé sur Internet, notamment sur les chaînes politiques de YouTube, etc., depuis 5 ans, 10 ans, etc. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui connaissent un peu ces différents microcosmes qui existent, il y a pas mal vraiment de niches qui existent sur Internet, dans la politique un peu radicale, à gauche, à droite, etc. Il y a un peu toutes les nuances possibles, et qui ne sont pas vraiment représentées dans les médias traditionnels, parce que c'est des positions, effectivement, assez extrêmes, assez radicales, et qui plaisent pas à des ensembles, à des audiences trop larges.
C'est d'ailleurs le
titre
de vos derniers livres, Radical.
Ouais, effectivement. Mais ce que je pense que c'est effectivement le phénomène à l'œuvre, et notamment sur Internet. Et donc, en réalité, il y avait pas mal de figures plus ou moins complotistes, dissidentes, dont certaines sont complètement nauséabondes, voire même en dehors du jeu légal, si j'ose dire. Mais dont, après, Zemmour, effectivement, même s'il les connaît pas nécessairement, il a hérité. Et en fait, cela, effectivement, ça représentait pas mal de personnes, des chaînes YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés, par exemple. Ça fait quand même très vite des millions de vues. Et donc, c'est aussi, je pense, que ce qui explique chez certaines personnes, notamment les jeunes générations, qui peuvent se reconnaître, en tout cas, trouver écho là-dedans. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, parce que Zemmour, de l'autre côté, est quelqu'un plutôt qui rejette cette culture-là. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui est plutôt un homme, semble-t-il, des livres, qui a l'air de mettre en avant plutôt, effectivement, une certaine forme de tradition, même dans la culture, etc. Donc c'est assez étonnant, parce que finalement il s'approprie quelque chose qu'il n'a pas vraiment enfanté, mais qui va peut-être éventuellement porter. Deuxième élément, je pense que c'est en fait beaucoup plus une figure littéraire, entre guillemets, pas du point de vue de son travail littéraire, hein, absolument pas, mais c'est une figure littéraire, une figure esthétique, on pourrait dire, beaucoup plus qu'une figure politique. Et quand on l'écoute, finalement, je dirais que c'est une position qui est tellement extrême et qui est tellement à l'opposé, on pourrait dire, d'une bonne politique, c'est-à-dire de quelque chose qui puisse être suffisamment maîtrisé pour que ça soit réaliste, que ça le sort, à mon avis, du champ politique traditionnel.
Quelle est
donc
la
le zémourisme.
Question...
Non, mais la question, du coup, c'est est-ce que finalement on n'est pas dans quelque chose qui est purement idéologique et qui n'est absolument pas quelque chose qui va se traduire dans les urnes.
François Cros.
Bah justement, nous, quand on utilise le terme de zémourisme, c'est comme quand on utilise le terme de gaullisme, de lepénisme ou de souverainisme. C'est qu'on n'est plus que dans le champ des idées. On parlerait plutôt à ce moment-là de zémorisation des esprits, qui est un terme en vogue depuis des années. Mais parce que, tout simplement, aujourd'hui, au regard de ces intentions de vote qui ont atteint un niveau assez exceptionnel en très peu de temps, on voit bien qu'il est capable de rallier sur son nom des millions de suffrages. Donc on n'est plus sur quelqu'un qui est uniquement dans le champ intellectuel, dans le champ de la bataille des idées, mais qui est dans la bataille, je dirais, électorale. Voilà. Et à ce moment-là, on peut bien sûr utiliser ce terme de zémourisme avec ce que ça implique sur le champ politique au sens large.
Caroline, ouais. Pilastre.
Contrairement à vous, je ne pense absolument pas que le zémourisme est une bulle éphémère. Je pense que c'est une
idéologie... Vous pensez donc comme François Cros.
À Tom, hein, je répondais. C'est une idéologie, pour moi, qui va perdurer dans la durée. Hein. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier qu'une certaine droite, une certaine frange de la droite se sent orpheline. Hein. De Fillon. Et donc, il répond à certaines questions, à certaines interrogations, à certaines angoisses bien légitimes, parce que quand même, rappelons que M. Zemmour a toujours, en tant que polémiste, défendu les sujets d'immigration, d'insécurité, le patriotisme français. Donc, quelque part, c'est un populiste, un nationaliste. Maintenant, il ne faut pas oublier que la force de M. Zemmour, qu'on soit d'accord ou non avec lui, c'est qu'il parle vrai. Il est sans filtre, contrairement à la majorité des politiques qui font de la langue de bois et qui ont des éléments de langage quotidiennement. Et pourquoi le font-ils ? Tout simplement parce qu'ils ont peur de perdre un électorat. Et lui, on n'a rien à faire. Vous lui posez les questions que vous désirez, il vous répond toujours, que ça vous plaise ou non. Et c'est sa grande force. Et moi, je pense véritablement, même s'il n'arrive pas au deuxième tour, je le vois au premier tour, mais les sondages, c'est juste un focus à l'instant T, on est d'accord, ça ne veut rien dire. Simplement, ses idées parle à une partie de la population française qui en a marre et qui n'a jamais été entendue jusqu'à présent, justement par les politiques qui faisaient de l'eau tiède avec ces questions qui sont quand même très importantes. Mais je l'attends pour terminer, parce que j'aimerais avoir mon tour de parole comme tout le monde, sur la lutte contre le chômage. Je veux l'entendre sur les inégalités, l'économie, parce qu'on ne sait pas actuellement ce qu'il en pense. Maintenant, il n'a pas encore officialisé sa candidature.
Mais le problème, c'est que l'économie, tout le monde s'est planté depuis 40 ans en France, c'est ça, souci.
Oui, mais c'est important pour
François
un politique
Cros, parce
de
qu'il doit
savoir.
Nous quitter dans deux minutes. François Cros, comme l'a dit Caroline Pilastre, et vous l'avez écrit, est-ce que la société française est vraiment acquise à ces thématiques ?
Allô ?
Allô ? Est-ce que la société française est vraiment acquise à ces thématiques ?
Bah écoutez, vous savez que Éric Zemmour est un grand amateur d'Antonio Gramsci, qui est l'intellectuel italien qui avait développé l'idée que pour gagner la bataille dans les urnes, il fallait d'abord avoir gagné la bataille des idées. Et là, on voit qu'il se lance dans un contexte d'opinion, dans un climat intellectuel assez favorable à ces thématiques, vu que quand on demande aux électeurs quelles vont être les thématiques déterminantes dans leur choix, on se rend compte qu'à l'exception de la santé qui a naturellement été boostée par la crise du Covid, trois des cinq thématiques les plus importantes sont la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration. Donc c'est des thématiques qu'ils labourent depuis une vingtaine d'années dans les médias et naturellement c'est des thématiques qui jouent aujourd'hui dans le vote de manière très importante et de manière nettement plus élevée en 2022 pour la présidentielle de 2022 que ce qu'on avait pu mesurer pour la présidentielle il y a 5 ans.
Merci beaucoup François Cross, vous devez nous laisser. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle politique de l'IFOP et vous avez donné une longue interview dans le Figaro qui est très intéressante à lire. On va partir au 0800 26 300 300. Bonsoir Philippe.
Bonsoir les vrais voix.
Bonsoir Philippe.
Et vous, est-ce que vous pensez que, comme François Cross vient de le dire, le zémourisme va s'installer durablement dans le paysage politique français ?
Bon, écoutez, moi, je vais vous dire ce que j'ai, parce qu'on m'a contacté après un message que j'ai, et je vais vous dire, aujourd'hui, je parle pour moi, et comme ça, vous donnerez une idée de ce que je pense. Aujourd'hui, moi, concrètement, Zemmour, est-ce qu'il va s'installer à long terme? Moi, pour l'instant, j'en sais rien. Aujourd'hui, ce que je vois, et pourquoi il y occupe, et qu'il prend de l'envergure, c'est simple, et Caroline, excusez-moi, j'ai oublié son nom de famille.
Pilastre.
Elle a parlé pour moi, elle a tout dit. Voilà ce qui se passe. Je vais vous donner, c'est vous qui me l'avez appris tout à l'heure. Comment voulez-vous, moi, je parle pour moi, qui vais certainement aller voter en 2022 ? Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, je ne sais pas pour qui je vais aller voter. Mais comment voulez-vous ? Et pourtant, je vais vous dire, alors j'ai commencé à voter à gauche et je suis arrivé à droite. Voilà. Et on va dire que je fais partie de cette partie LR. Voilà. Vous voyez, d'accord ? Et aujourd'hui, vous avez un monsieur comme monsieur Barnier qui vient, qui s'impose comme le père de la nation, le sauveur de cette droite républicaine, qui en gros a avalisé tout ce qui aujourd'hui fait que je ne supporte plus cette Europe, et tout un tas de choses, et on apprend que ce monsieur vient et va se présenter au grand débat pour représenter notre pays, le peuple de France, et il vote même pas. Il n'est même plus adhérent au LR.
Le mec n'est pas, pas le seul. Hein, Xavier Bertrand n'était plus adhérent et Valérie Pécresse non plus. Hein.
Mais pareil, Valérie Pécresse, elle sort du LR, mais elle revient parce qu'elle est candidate. Xavier Bertrand, ils ne sont plus crédibles. De l'extrême gauche à l'extrême droite, ils ne sont plus. Et alors, là, je rejoins ce qu'a dit Mme Pilastre, c'est que Zemmour, il parle sans filtre. Il parle comme moi, je pourrais le dire. Alors, voilà, il parle vrai. Il est Philippe, en train de courtiser.
Philippe, merci beaucoup de votre action. Je vais faire réagir un autre Philippe, Philippe Bilger. Quand vous entendez ce que dit Philippe, c'est quand même vrai. Le problème, et on l'avait dit avec François Cross, sur l'économie, sur la politique surtout, tout le monde se plante depuis 40 ans. Tout le monde s'est planté, que ce soit les LR ou le PS. Est-ce que quelque part, ils ne donnent pas une opportunité aux Français de renverser la table sans mettre le RN au pouvoir?
Votre argument est valable, Philippe, et j'ai bien entendu l'indignation de notre Philippe.
Oui, ça
auditeur,
fait beaucoup de Philippe, ça, je
mais
sais.
Mais c'est vrai qu'on peut évidemment considérer que les pouvoirs précédents n'ayant pas parfaitement réussi, c'est un euphémisme. On ne peut guère reprocher à Éric Zemmour de n'être pas inventif pour l'instant sur les projets concrets qu'on lui demande, d'autant plus qu'il a l'habileté tactique de répéter en permanence « Je ne veux pas être Premier ministre, mais je veux être Président de la République ». Reste tout de même qu'il me semble que ça va être difficile pour lui en permanence de montrer qu'il a un projet pour le futur, alors que pour l'instant, il n'est que le représentant des arrière-pensées d'une majorité de Français qui longtemps n'ont pas pu s'exprimer de manière aussi brutale. Ouais. Au fond, il ouvre la boîte de Pandore avec infiniment de talent et une brutalité qui donne l'impression sur beaucoup de plans d'une totale vérité.
Tom Collin. Bah,
justement, le vrai problème avec lequel je suis pas du tout en accord depuis tout à l'heure, c'est que Caroline, même Philippe, finalement, vous dites un peu la même chose. Considérez que finalement, il y a de la
Philippe
vérité.
Lequel, Bilger, ou
Philippe Bilger, pardon.
Les deux.
Et Caroline. Les deux. Et Caroline. Vous
non, mais vous employez le terme de vrai, de vérité. Oui. Donc c'est la même chose. Je pense qu'il y a une grande confusion. Il y a une confusion entre le vrai et la violence, entre le vrai et la brutalité. C'est pas parce que, par exemple, si j'aime pas quelqu'un, si je lui dis je ne t'aime pas. C'est une manière de lui dire. Si je lui dis je te déteste, je te hais, vous voyez bien que j'ai une gradation. Pour autant, c'est la même idée. C'est pas parce que Zemmour, effectivement, est dans l'hyperbole sur à peu près tous les sujets qu'il est forcément dans le vrai. Alors évidemment, l'hyperbole, c'est toujours un peu plus intéressant à entendre parce que même si vous écoutez la télé, la radio, si quelqu'un commence à balancer des injures ou à être dans l'emphase, à exagérer toutes ses positions, effectivement, vous allez beaucoup plus tendre l'oreille. C'est pour ça que c'est aussi
c'est
un homme de médias.
C'est pas ce qu'il fait, Tom. Je suis en désaccord total avec
moi. Je termine, c'est gentil. Oui. Et en fait, le vrai problème de Zemmour, justement, c'est que la plupart de ses positions, on peut éventuellement les suivre pendant 15 secondes, et puis ensuite, il les extrapole, généralement sans données à l'appui, ou en tout cas avec des données qui manquent, notamment sur les questions économiques, mais y compris sur les questions d'immigration. Et donc, de ce fait-là, ça ne me semble pas franchement donner confiance, même pour les électeurs de droite, dont je ne suis pas, mais peu importe. Mais il me semble qu'il y a d'autres candidats qui me semblent quand même un peu plus rigoureux de ce point de vue-là. Et la modération, vous savez, la modération sur un plan politique ou idéologique, c'est compliqué. C'est plus compliqué que d'être extrême, que d'être ferme et d'être raide.
Caroline Sauf Pilastre, que la
mode est au transgressisme.
Oui, mais bien sûr, on sait très bien que ce qui marche actuellement, c'est le radicalisme. Et M. Zemmour est radical sur beaucoup d'aspects. Sauf qu'il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, ce que ne font pas les autres. Tom, moi j'ai envie de te répondre. La politique, c'est quelque chose de très brutal et de très violent. On n'a pas attendu Zemmour pour ça. Quand tu entends des débats, les gens s'invectivent parfois, ils sont remplis d'anathèmes les uns envers les autres. Simplement, ce que fait M. Zemmour, qu'on soit une fois de plus d'accord ou non avec lui, c'est de répondre sur certains aspects, puisque moi aussi, j'attends le reste, pour savoir si ça serait un candidat politique crédible, à des questions sociétales auxquelles on ne répond pas depuis des années, en se mettant des œillères ou la poussière sous le tapis. Et c'est pour ça que les Français l'apprécient dans ce sens-là.
La démocratie, c'est la recherche du consensus.
Les autres ne le font pas particulièrement. Pardonne-moi, ils font beaucoup de langues de bois.
Mais Zemmour,
et c'est pour ça qu'il y a
pas.
Autant d'abstention.
Philippe Bilger, la démocratie, c'est le consensus ?
Pas forcément.
Ouais.
Parce qu'à force de faire du consensus, on ne met jamais en œuvre les politiques dont la France a besoin.
Exactement.
Verdict sur Twitter. Notre grand débat, le zémourisme est-il en train de s'installer dans le paysage politique français ? Vous êtes 83,3% à dire oui sur Twitter. De suite, on va prendre la direction de Moissac, où le maire a supprimé les aides à la famille d'un mineur. On va voir pourquoi avec lui. Restez bien sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Tom Conan et Caroline Pilastre. Le maire de Moissac supprime les aides à la famille d'un mineur. Pourquoi ? Car le fils de cette famille aurait craché sur un véhicule de police municipale. Le maire de Moissac a décidé de couper toutes les aides municipales à la famille de cet ado. Romain Lopez est avec nous, il est le maire RN de Moissac. Bonsoir Romain Lopez.
Bonsoir monsieur, bonsoir à tous.
Racontez-nous ce qu'a fait ce mineur de 14 ans.
Alors en l'occurrence, vous l'avez narré en partie, hein, le mineur de 14 ans avait craché sur une voiture de la police municipale, et lorsque les policiers municipaux sont allés à sa rencontre pour avoir une explication, il leur a dit « de toutes les façons, on fait ce qu'on veut, nous on paye pas ». Bon, il s'avère que précédemment à cet incident, il avait aussi jeté des cailloux avec un copain sur les fenêtres d'un lycée agricole, et puis il y a encore quelques jours, il a été acteur de bagarre entre jeunes. Donc voilà, c'est un petit troublion, en l'occurrence par contre avoir craché sur un véhicule de la police municipale, donc sur une figure de l'autorité républicaine, c'était pour moi la goutte de trop, et donc on a lancé une procédure de rappel à l'ordre en collaboration avec le procureur de la République. Les parents étaient censés venir avec le mineur dans mon bureau pour recevoir un peu un sermon en présence de la police municipale et de la gendarmerie, sauf que le jour de la convocation, ils ne sont pas venus prétextant qu'ils avaient mieux à faire. Par conséquent, moi, ça n'a fait qu'un tour. J'ai pris ma plume et je leur ai rédigé un courrier en leur disant qu'ils ne seraient pas éligibles aux aides sociales municipales délivrées par le CCAS s'ils en demandaient le besoin, s'ils en avaient le besoin.
Et donc, vous leur avez supprimé les aides, mais si elles réclament des aides à l'avenir, cette famille, elle ne les aura pas, donc ?
Tout à fait.
Alors justement, on va faire réagir les vraies voix, Philippe Bilger.
Monsieur le maire, vous savez que je ne suis pas un laxiste et je comprends l'autorité et j'allais évidemment vous demander si cette mesure extrême avait du sens à l'égard d'un jeune homme de 14 ans, même s'il crée des problèmes, il a encore un futur dont on peut espérer qu'il sera meilleur. Mais vous avez rappelé après qu'il avait été convoqué avec sa famille pour un rappel à l'ordre et que, n'étant pas venu, vous avez supprimé les aides, ce qui me paraît, en l'occurrence, tout à fait cohérent. Mais est-ce que vous ne croyez pas que les lui supprimer tout le temps, ainsi qu'à sa famille, ça n'est pas excessif ?
Romain Lopez.
Alors, c'est déjà surtout responsabiliser les parents, parce que je veux dire, aujourd'hui, enfin demain, si les parents nous sollicitent pour des aides municipales pour payer des factures de cantine, de centres de loisirs ou des factures énergétiques, ces parents bénéficieront de la solidarité municipale. Cette solidarité municipale, elle est alimentée par qui et par quoi ? Par mes administrés et par leurs impôts. Et je considère que les classes moyennes mossagaises, qui sont déjà assez peu nombreuses sur mon territoire à payer des impôts, ben, ces classes moyennes, je préfère qu'elles payent des impôts pour améliorer la qualité du service public, les infrastructures, les bâtiments, la voirie, que de payer des impôts pour des personnes qui bénéficient d'une solidarité alors qu'ils n'en ont cure de l'intérêt général et de la tranquillité publique. Je précise cependant que la famille a réagi. Donc ça veut dire que contrairement à ce que certains bien-pensants et laxistes prétendent, ça a quand même son effet, puisque la famille souhaite me rencontrer et revenir un peu sur l'attitude de l'enfant. Et dans ce cas, évidemment, on reviendra sur la mesure, on lèvera la sanction.
Alors Romain Lopez, le conseiller municipal Franck Bousquet a déclaré ceci. Avec ce type de communication, Romain Lopez renforce son image sécuritaire. C'est aussi la preuve d'une véritable concentration de ses pouvoirs sur la commune. Que lui répondez-vous ?
Écoutez, je réponds tout simplement que le maire a des prérogatives qui lui sont entièrement conférées par la loi. C'est pas moi qui fais la loi, ce sont en l'occurrence les parlementaires par le passé. Et qu'effectivement, le maire, à travers cette loi qui lui est conférée, il a les pouvoirs de d'assurer la tranquillité publique, la sécurité et la salubrité. Et que les maires disposent de certains leviers pour sensibiliser ou pour réprimer. Et dans ces leviers, il y a notamment la transaction et le protocole de rappel à l'ordre. Je précise que ce protocole, je ne l'ai pas décidé seul, mais avec le procureur de la République, et que le règlement d'attribution des aides du CCAS, nous l'avons voté en conseil d'administration, en présence des élus de la majorité, d'élus de l'opposition et de représentants d'associations locales. Donc je ne décide pas seul dans mon bureau, c'est fait en collégialité, avec les élus, mais aussi avec le procureur de la République.
Merci beaucoup Romain Lopez. Je rappelle que vous êtes maire Rassemblement National de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Merci beaucoup les vraies voix. Philippe Bilger va nous quitter. On lui souhaite un excellent week-end. Mais pour la suite des vraies voix,
bon
Tom
week-end,
Conan.
Bon week-end, Philippe. À bientôt.
Merci. Et bon week-end à tous les deux et à notre animateur et irremplaçable, bien sûr.
Vous parlez et
s'il
à tous nos auditeurs.
S'il pouvait chanter Brassens. Vous nous chantez pas Brassens encore ?
Non, je l'ai fait une fois, c'est bon. Non, là, c'est bon.
Bah, il fait comme les grands artistes, exactement. Spontanéité.
Faites-nous Georges, au moins, quoi.
Allez, en faites plaisir à Philippe,
auprès de mon
c'est le
arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre.
Ça vous va ? Eh ben, c'est parfait. Et on aura nos deux vraies voix du jour, Pascal du Lot-et-Garonne et Abdelhak de Mont-de-Marsan, qui vont parler du prix de l'essence et du zémourisme. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix, ils sont restés avec nous, Tom Conan et Caroline Pilastre, et nos deux vraies voix du jour, Pascal du Lot-et-Garonne, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe.
Et Abdelhak de Mont-de-Marsan, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Alors on va commencer, c'était les deux débats du jour, par les prix des carburants, Pascal. Alors je vous donne l'évolution du sondage depuis nos débats. Pour le moment, vous êtes 97,3% sur Twitter à dire que le chèque, on va dire le chèque de 100 euros d'indemnité inflation n'est pas à la hauteur. Votre approche, Pascal ?
Oh bah écoutez, moi hier j'ai rigolé, c'est rare que je me mette sur TF1 parce que les infos maintenant commencent à me gaver. J'écoute beaucoup plus Sud Radio que le reste.
C'est bien. Ça c'est une bonne chose.
Voilà, parce qu'il y a les vraies voix. Et bien pour moi, déjà, j'avais l'impression d'avoir une marionnette mal maquillée, une personne qui n'avait pas du tout la façon de discuter d'un Premier ministre, et puis des propositions nulles, nulles, totalement nulles. Alors je pense qu'ils ont, Ils n'ont pas compris, 3 ans en arrière, ce que les Gilets jaunes ont fait, parce que ça, à ce moment-là, ils ont quand même eu un peu peur, et ils avaient remis, ils avaient baissé les prix. Eh bien, c'est ce qui va se passer. À partir de la semaine prochaine, moi je suis un ancien gilet jaune, on a perdu un ami à Villeneuve qui était le 9e accidenté, qui est décédé, et on va remettre les gilets jaunes parce que ce gouvernement n'en fait qu'à sa tête et ne comprend pas, il ne comprend même pas les autres partis politiques qui leur parlent, qui tirent la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qu'on va faire avec 100 euros? Regarde, et c'est complètement, il n'y a pas d'égalité, alors que sur les mairies c'est marqué fraternité, égalité. Où est l'égalité, puisque c'est ceux qui ont les moyennes classes? Et pourquoi? Et pourquoi les moyennes classes? Tout le monde dans ces cas-là. Pourquoi ce monsieur, le Premier ministre, a des moyens, lui? Mais les alors, Français n'en ont plus, les moyens.
On va faire réagir Abdelhak. C'est vrai que, Paul, Pascal, dans le Lot-et-Garonne, vous, Abdelhak, dans les Landes, les gens ont besoin de leur voiture pour travailler. C'est impératif parce qu'il n'y a pas de réseau de transport en commun pour une bonne et simple raison. Et est-ce que les annonces du Premier ministre du chèque 100 euros, vous êtes dit c'est à la hauteur ou pas?
Alors moi, je suis mal barré, ben j'ai une station de service. Donc
vous, c'est comme dans le jeu, les 1000 bornes, vous mettez panne d'essence, vous mettez coup de fourré avec le camion citerne, c'est ça?
Voilà. Non, c'est très compliqué comme commerce. D'ailleurs, il y en avait plus de 16 000 il y a même pas 10 ans, en indépendant comme moi, parce qu'on n'a rien à voir avec les groupes Total et tout le reste. Hein. On est des petits indépendants de rien du tout. Hein. Et donc, nous, on achète le carburant au prix où on l'impose. Et ensuite, on essaie de faire une marge. Mais c'est vraiment c'est un produit pourri à vendre, sincèrement. Voilà. Donc ça, pour la parenthèse. Alors, les 100 euros, moi, j'aurais été le gouvernement, techniquement, je n'aurais même pas parlé. Je trouve que c'est mieux que rien quand on sait que les caisses sont vides. Il ne faut pas oublier qu'on est sorti. On sort d'une... J'appelle ça l'État-providence, je crois que ça s'appelle comme
oui,
ça.
Oui, c'est comme ça, oui.
Où on a soutenu les entreprises pendant la crise du Covid, où le gouvernement n'y était absolument pour rien, aucun gouvernement au monde n'y sommes pour rien. Et c'était délicat. Soit ils faisaient rien du tout, soit ils faisaient... Moi, j'aurais fait... Alors, je vais me faire allumer par le monsieur qui est gilet jaune en disant j'aurais rien fait du tout parce qu'ils n'en auraient pas parlé. J'aurais baissé les impôts ailleurs en disant... voilà, mais faire un chèque de 100 euros, c'est sûr que ça pousse à la moquerie parce que vous dites, mais 100 balles, ouais, ça fait un bon plein, ouais, ok, et après, quoi. Donc, après, il a raison, le monsieur, dans le sens où le carburant, il est taxé à plus de 60% de taxes, Pascal. Oui. Donc, mais si on enlève, ça rapporte énormément à l'État. S'il détaxe ce carburant-là, il faudra trouver l'argent ailleurs. Déjà qu'on a des milliards que l'on doit. Donc, moi, je veux bien faire plaisir à tout le monde et penser
mais
comme vous.
Abdelhak, vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit tout à l'heure dans les vraies voix, que c'était la politique du chéquier ouvert comme on était à 6 mois des élections?
Absolument.
Alors, on va faire
le payer tout ça.
Ah oui, mais après les élections, on va faire réagir les vraies voix. Tom Conan.
Il faut reconnaître quand même sur la mesure, on a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, elle est quand même un peu limité effectivement dans son effet, c'est moins qu'on puisse dire, mais après je pense que n'importe quel autre candidat, n'importe quelle autre personne, parce que Macron est lui-même candidat à sa réélection,
c'est pas officiel.
Oui, mais bon, tout le monde sait que c'est le cas. Mais n'importe qui aurait fait ça, en fait, c'est-à-dire ils auraient fait un geste, mais dans un contexte budgétaire contraint, bah ce geste n'aurait pas été au-delà des 100 euros. Donc finalement, que ça aurait été Sarko, Hollande qui voulait, ou demain n'importe quelle autre personne. Donc non, fondamentalement, faut pas non plus, voilà, il y a un certain nombre de contraintes qui sont telles que, bah, à bout d'un moment, il y a un arbitrage à faire entre d'un côté la satisfaction de quelques personnes et d'un autre effectivement ces contraintes-là. Mais moi je réinsiste sur ce qu'on avait un peu dit tout à l'heure déjà, sur le fait que de toute façon c'est une fuite en avant, puisque quoi qu'il en soit, on ne maîtrise pas
une fuite de carburant,
ouais,
c'est ça
c'est le cas de le dire. Non mais on ne maîtrise pas, et on ne méprise pas non plus, mais ces approvisionnements, en tout cas pour une grande partie, on n'est pas autosuffisant d'un point de vue énergétique en totalité, et donc la seule solution, ce n'est pas effectivement de jouer sur les les taxes, puisque de toute façon on dépend de ça pour ensuite financer les services publics, etc., la politique sociale, etc., la politique en général, la redistribution notamment. Donc la seule solution, c'est l'augmentation des revenus. Et donc c'est pas en baissant les impôts qu'on augmente les revenus, c'est en augmentant les salaires. Alors on les augmente pas de manière autoritaire, évidemment, mais
ouais,
on fait ça.
Et puis l'État décide pas des salaires avec... des entreprises
bien
privées.
Non, non, mais
dans la pompe
à
l'essomme d'Abdelak, on dit pas le salaire
non,
s'étend.
Non, je parle d'une politique économique qui a ensuite abouti à long terme. On n'a pas parlé tout à l'heure exactement, mais moi par exemple, je suis tout à fait conscient, en France aujourd'hui, la plupart des Français ont besoin à peu près de 30% en plus de revenus pour pouvoir vivre à peu près décemment. C'est des chiffres bien supérieurs, effectivement, à ces 100 euros ponctuels.
Vous qui avez fait d'HEC, ça fait de l'inflation dans en les effet, tuyaux. Ouais. Caroline Pilastre, non, ouais, qu'est-ce que vous voulez répondre à nos deux auditeurs, Pascal dans le Lot-et-Garonne et Abdelak dans les Landes? C'est vrai que là, le carburant, c'est vital pour bosser, pour faire les courses, etc.
C'est vital pour énormément de gens. Mais l'indemnité inflation, comme ils l'appellent, écoutez, pour moi, je le redis, mais c'est un chèque de redistribution de nos impôts. Donc, on va arrêter deux minutes. Bien sûr que c'est beaucoup d'argent et qu'on va être endetté encore pour des générations à venir. Mais en soi, oui, moi, je suis d'accord avec un peu les deux auditeurs. C'est-à-dire que c'est un peu du foutage de tête parce que 100 euros, on ne fait pas grand-chose. C'est bien. Maintenant, ça va être mis en place entre décembre et la présidentielle. Donc, que va-t-il se passer si M. Macron est réélu, est-ce qu'il va arrêter ou est-ce que ça va continuer? C'est simplement pour répondre à l'urgence en termes de pouvoir d'achat. On sait qu'il y a une hausse de tout en ce moment et suite à la sortie de la Covid. Donc alors, moi j'aimerais bien comprendre aussi parce que ce soit, on le redit, sur le gaz, l'électricité, le carburant, l'alimentation, les vêtements, vous allez m'expliquer, on vous donne toujours l'excuse que le fait que le monde se soit arrêté pendant la période de la Covid. Très bien, mais enfin, il y en a quand même qui ont bien marché. Et puis, pour le carburant, je suis désolée, mais on pourrait essayer de réguler. On est quand même une grande nation. Les taxes, mais... on est le pays le plus taxé
là,
au monde.
Façon,
on va
arrêter
deux minutes, quoi.
On a aussi un peu parlé tout à l'heure, mais la paupérisation, elle est réelle. Elle est réelle.
Mais bien sûr.
Et elle touche une grande partie des Français, l'écrasante majorité
et
des Français.
Et les classes moyennes
moi,
aussi.
Moi, je connais par exemple des amis qui parfois prennent le métro, qui habitent dans un coin où il y a des boutiques, je veux dire, des supermarchés à côté de chez eux. Mais comme c'est dans des zones qui sont parfois un peu chères, ils prennent le métro pendant une demi-heure pour aller dans un autre endroit, un plus en banlieue ou dans une banlieue plus éloignée, de façon à pouvoir faire des économies sur quelques euros. C'est pour vraiment rendre compte de ça. Et je parle de personnes qui ont un boulot, qui ont un revenu relativement décent, supérieur au salaire moyen, bien supérieur, etc. Ce qui montre bien que cette paupérisation, elle est très forte parce que ça touche plus uniquement les classes populaires, mais ça touche les classes moyennes et ça touche même finalement les classes moyennes supérieures.
La classe moyenne qui devient de plus en plus moyenne inférieure.
Parce que les classes moyennes supérieures...
Vous avez un million
de
deux vraies voix.
En plus, là,
oui.
Hein,
on va redonner la parole
COVID,
à nos deux vraies voix. Parce qu'on va rester sur ce sujet, parce qu'il nous reste 3 minutes. Pascal, est-ce que du côté du Lot-et-Garonne et Abdelak, du côté des Landes, par exemple, ben, vous, Abdelak, je vous poserai la question sur la question du côté du plein d'essence. Est-ce que vous voyez les gens qui se paupérisent, vous, Pascal, rapidement, parce qu'il nous reste 3 minutes?
Ah ben oui, parce que bon, moi, j'ai de la chance d'avoir acheté un véhicule d'occasion diesel à laquelle je fais, elle me fait que 4 litres au 100. Donc,
oui, c'est très faible.
C'est correct. Mais bien sûr, les gens maintenant n'arrivent plus à se déplacer comme ils veulent. Alors c'est des petites quantités, ça va être 20 euros, ça va être 30 euros, mais ça va jamais être un plein complet. Mais on peut pas dans les campagnes, il faut qu'on se bouge. On peut pas prendre le vélo comme certains écologistes voudraient qu'on fasse partout, parce que à la campagne c'est impossible de prendre le vélo pour faire 20
km. Excusez-moi, faire Agen Villeneuve-sur-Lot en vélo, c'est plus compliqué que faire Hôtel de Ville Bastille. Hein. Ça, il y a pas,
voilà,
pas, pas photo.
Exactement. Bien qu'il y ait des quarts de ligne maintenant qui sont mis, mais c'est pas suffisant, quoi. Non, faut arrêter. Il faut déjà qu'ils baissent leur salaire, les ministres et tous ces gouvernements successifs, et on aurait les taxes en moins. Parce que cela, c'est le gouvernement qui se mange. Voilà la vérité.
Abdelak, les gens qui viennent faire le plein dans votre pompe, bah plus c'est cher, je sais pas combien est le litre de gasoil ou de sans-plomb chez vous ce soir.
Ah mais non, je fais partie des plus chers, moi, donc je vais pas me faire de la mauvaise publicité.
Mais non, mais il faut bien vivre. Justement, une question...
On est des indépendants.
Oui,
en tout cas, regardez, sachez que les Français sont des super mauvais élèves avec le carburant. Il y a un carburant qui est extraordinaire, parce que ce qui coûte cher, c'est parce qu'on exporte le carburant. On fait venir le gasoil et l'essence, d'ailleurs, on a très peu de production, très faiblement apparentiste.
Bah, il y en a un peu dans les Landes, oui, apparentiste en borne.
Oui, il y a un carburant qui est extraordinaire, qui est fabriqué en France, et on n'en parle pas assez parce qu'on est des petits merdeux en France.
L'éthanol.
On préfère chialer que trouver des solutions. Mais oui, c'est l'éthanol,
mais on en parle dans Ça roule régulièrement.
Mais oui, mais pourquoi les gens ne le font pas? Un boîtier, ça coûte, si on se le fait, ça coûte 150 balles. Si on se le fait poser, ça coûte 700 balles. Mais bon sang, c'est même pas, c'est amorti en même pas 6 mois le truc. Mais pourquoi les Français ne le font pas? En plus, ils ont 10 fois moins de panne et de frais au niveau des pièces automobiles avec de l'éthanol. Oui.
Mais Abdallah, vous pensez pas que c'est parce que c'est de la méconnaissance, justement, les médias n'en parlent peut-être pas suffisamment?
Ah, sur Sud Radio, nous
oui,
on en parle.
Sud, alors là, oui, bien sûr, mais peut-être mais énorme, qu'on devrait plus mais en parler en termes de
alors, je vais prendre la défense des consommateurs, Abdelhak, c'est que les fabricants français n'ont pas de voiture à éthanol pour le moment. Je veux dire, il y en a un qui est vraiment en pointe, c'est Ford, qui est un constructeur américain et pas français, il faut quand même le rappeler. Et à partir de là, quand vous mettez un boîtier, vous perdez la garantie. C'est ça le problème aussi, non?
Oui, alors ça, vous perdez la garantie.
Mais c'est le fabricant du boîtier qui prend la garantie à la place du fabricant, c'est ça?
Exactement. Et puis ensuite, oui, il y a ça. Absolument, vous avez raison. Biomotors fait ça. Flexoul fait ça. En plus, c'est les fabricants français et les poseurs français. Qu'est-ce qu'on s'emmerde la vie? Moi, je comprends pas parce que ça coûte 10 fois moins cher.
C'est vrai, c'est 70 centimes le litre à côté de chez moi avant-hier.
Pas 10 fois moins cher, mais en tout cas, au niveau de l'entretien, je vous donne ma parole, ça n'a rien à voir. Vous diminuez par 3 ou 4 votre entretien du véhicule, et en plus, vous polluez pas. C'est ça qui est incroyable.
Merci beaucoup, Pascal et Abdelhak. Vous êtes de terre de rugby. Pascal, il y a Agen qui va pas très bien dans le Lot-et-Garonne. Oui, bon, Abdelhak, vous devez être déçu parce que Mont-de-Marsan a perdu hier soir du côté de Sapiac. On vous remercie.
On a défoncé Agen la semaine dernière, donc ça va.
Là, c'est la guerre entre nos deux vraies voix du jour. Et donc, c'est l'heure du rugby. On vous remercie tous les deux d'avoir été nos vraies voix. Et le menu est alléchant ce soir sur Sud Radio avec vous, Alexandre Prière et l'équipe des sports.
Là, c'est entrée, plat, dessert en même temps. ce
café,
soir,
pousse-café, pousse-tisane.
Et vin, surtout. Il y a 7 matchs en même temps ce soir à Jean-Aurillac, Béziers, Colomiers, Bourg-en-Bresse, Narbonne, Carcassonne, Vannes, Rouen, Oyonnax, Bayonne, Aix-en-Provence et enfin Nevers, Grenoble à 19h45 au lieu de 19h30 sur les autres matchs. On aura donc 7 rencontres en direct ensemble jusqu'à 22h ce soir. Du coup, format un peu raccourci avec toute l'équipe Sud Radio.
Et c'est avec vous sur Sud Radio et je veux souhaiter un anniversaire d'une vraie voix, Jean Dorido, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il sera lundi dans les vraies voix d'ailleurs. Et également, c'était avant-hier, on lui a pas souhaité une autre des vraies voix, Bruno Pomard, un des fondateurs du Raid. Alors les gars, on vous embrasse et on vous souhaite a posteriori et le bonjour, un bon anniversaire à les Bruno et à Jean.
Les copains d'abord, les balances, exactement. Je suis balance aussi, bravo messieurs.
Et vive les balances. Tout de suite, on va parler de votre patrimoine avec Philippe Rossi et Stéphane Moller, conseil de famille.